عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. Cette soirée du samedi 4 Dhul Hijja 1433 de l'Hijr correspondant au samedi 20 octobre 2012. Inch'Allah ta'ala. Nous sommes toujours au hadith numéro 60, le très long hadith. Très long hadith, comme je vous ai dit. Ça fait peut-être deux ou trois mois qu'on est toujours dans le même hadith. Al-Muhim, on est donc en la croyance au messager. La croyance au messager. Je vais faire un petit résumé, inshallah ta'ala, de ce que j'ai dit la fois passée, inshallah ta'ala. Donc, comme vous avez remarqué, aujourd'hui, inshallah ta'ala, j'ai commencé à 20h30. Naam. Inshallah ta'ala, comme ça, jusqu'à ce que je commence à 20h. Car, yani maintenant, la Isha descend. Et chez vous, alhamdoulilah, dans un mois ou là, vous savez qu'on va enlever une heure. Il n'y aura plus de décalage entre vous et moi. Donc, dans la croyance des messagers, si vous vous rappelez, on avait dit que les messagers avaient des particularités, des spécificités. Entre autres, ils avaient la révélation. Et personne ne peut avoir la révélation. Une personne, c'est vrai, peut être inspirée. Elle est inspirée. Elle dit une chose, ou elle pense à une chose ou là, ça peut arriver exactement comme elle a pensé. Mais il ne peut pas lui être révélé. La deuxième, c'est l'infaillibilité. L'infaillibilité, c'est le cours qui va venir, inshallah ta'ala, dans un quart d'heure. Là, on va parler de ça. Et on avait dit aussi, troisièmement, que les prophètes, que leurs yeux dormaient, mais pas leur cœur. Leurs yeux dormaient et pas leur cœur. On avait dit aussi que les prophètes, lorsqu'ils meurent, Allah subhanahu wa ta'ala les fait choisir. Ou bien, est-ce que vous voulez mourir maintenant, ou bien vous voulez que je vous rallonge dans votre vie. Et ça, c'est impossible que ça arrive à une personne, sauf un prophète. Et on avait dit aussi que rentre dans les spécificités, que les messagers, les prophètes, que... Ils doivent être enterrés là où ils meurent. Alors que nous, on doit être enterrés dans un cimetière. Mais eux, non. À l'endroit où ils meurent, ils doivent être enterrés. Et enfin, on avait dit que la terre, Allah Ta'ala lui a interdit qu'elle mange leur corps. Allah Ta'ala a interdit à la terre qu'elle mange leur corps. Quand on dit la terre est ce qu'elle contient. Comme verre. Bien vermine ou bien insecte, tout ça, il leur est interdit qu'ils mangent quoi les corps des messagers, car leurs corps sont quoi? Leurs corps sont yani, préservés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que yani, leur corps, masha'Allah, yani, c'est pour cela que, par exemple, si quelqu'un meurt, si quelqu'un va mourir de faim par exemple, et il n'a trouvé rien à manger que le corps d'un de ses amis. Ils sont dans une forêt ou là quelque part, ils n'ont rien à manger, c'est la famille, ils vont mourir, et donc il y a quelqu'un du groupe qui est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a que la solution de manger un peu de son corps. Ça, c'est possible. Cheikh Bel-Othaymin Lahermo, il dit que c'est même permis de prendre un peu de réserve. Il dit, si le chemin est long, non seulement tu manges, mais encore tu prends un peu de réserve avec toi, du mort, pour manger. Elle-Moi, pourquoi j'ai dit ça? Mais imaginez que le mort soit un messager ou un prophète. Est-ce que c'est permis de manger de son corps? c'est pas permis. Allah Ta'ala a interdit à la terre qu'elle le mange. Qu'en est-il? Yani, un croyant va manger de son corps. C'est impossible. Je rappelle aussi, Naam, il y avait une autre chose que j'avais oublié, que parmi les spécificités, qu'ils étaient vivants dans leur tombe. Vivants dans leur tombe. Et j'avais dit que leur nombre était de 124 000. 124 000 prophètes. Et que parmi ces 124 000, il y a 315 messagers. Ça veut dire que de là, on prend la règle qui dit que chaque messager est un prophète. Et pas chaque prophète est un messager. La preuve, on a 124 000 qui sont quoi? Qui sont prophètes. 124 000, il y en a 315 que Allah Ta'ala leur a donné un statut plus haut. Ils sont messagers. Donc, étant messager, étant devenu messager, ça veut dire qu'il est aussi prophète. Parce qu'il fait partie des prophètes. Non. Donc, des 124 000, seulement 315 ont été élevés au grade 2, au statut de messager. Les autres restent seulement des prophètes. Donc, chaque messager est un prophète, et pas le contraire. Quant à aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de la spécificité de l'infaillibilité. Car on avait dit que parmi leurs spécificités, c'était qu'ils étaient infaillibles. Toute la communauté musulmane, sans parler des savants, sont unanimes pour dire que les messagers sont infaillibles. Par rapport à quoi? Par rapport à la législation. Et plusieurs savants ont cité le consensus des savants sur cela. Vous pouvez lire Majmou' al-Fatawa de Cheikh Islam Taymiyyah, tome numéro 10, page 291, où il a dit qu'il y a un consensus des savants que les messagers sont infaillibles en ce qui a rapport avec la charia. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Sanuqri'uka falatansa illa masha'Allah »« Sanuqri'uka falatansa illa masha'Allah » Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras pas. C'est impossible, l'âme, qu'il oublie yani, le Coran, parce que le Coran c'est la charia. C'est impossible qu'il l'oublie et qu'il dise, on lui demande une chose sur, par exemple, comment on fait par rapport à cette chose dans la charia, et il y a un verset, et il dit, j'ai oublié, ou bien je ne sais pas, ou bien je ne me rappelle plus. Allah Ta'ala lui a dit, nous te ferons réciter le Coran, de sorte que tu n'oublieras pas. Ça y est. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré que les messagers, jamais, ils ne cachent quelque chose du Coran. Jamais ils ne cachent quelque chose du Coran, mais ils doivent transmettre tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur leur cœur. Car le fait de cacher quelque chose, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la trahison. Triana, la trahison. Et les messagers, c'est impossible qu'ils trahissent. Donc elle a dit, « Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al, fa ma ballaghta risalatah. » Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, ou tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Ça veut dire que si tu caches quelque chose, non, mais tu ne montres pas quelque chose que j'ai descendu, alors ça veut dire que tu n'as pas communiqué le message, tu as trahi. Non, tu as trahi le dépôt, l'amana. D'ailleurs, mieux que cela, si jamais, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans le Coran que si jamais l'un des messagers cache quelque chose, ou bien par exemple, change quelque chose, change quelque chose de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu dans le Coran, qu'arriver un châtiment ici dans cette dunya, avant l'au-delà. Allah ta'ala dit dans le Coran, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوتين ثم لقطعنا منه الوتين. اي سي لافي صديق لو ميساج عليه الصلاه والسلام سي لافي فورجي il aurait menti quelques paroles qu'il nous avait attribuées, il va dire que Allah Ta'ala a dit cette chose alors qu'il n'a pas dit, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché l'aorte. Vous connaissez l'aorte, hein, qui va directement, yani, qui est dans le cœur, ou là, qui va au cœur, qui fait passer le sang dans le cœur. Si jamais Hadi, ce châtiment-là, hein, cette punition-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dite au messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il si quelqu'un d'autre va essayer de mentir sur Allah ou de faire quelque chose? Il a dit, si jamais tu mens quelque chose sur nous, alors nous l'aurions saisi de la main droite. Les Arabes disent, arrête sinon, je vais te saisir de la main droite. Si on saisit quelqu'un de la main droite, c'est la main, yani, la forte, c'est pas comme la gauche. Si on saisit quelqu'un de sa main droite, ça veut dire qu'on va le tuer. On va lui faire vraiment mal. Allah Ta'ala lui a dit, ensuite tu vas voir, nous lui aurions tranché l'aorte. Il a dit ça à sa meilleure créature, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il par rapport aux autres? Tayyib. Maintenant, puisqu'on a cité et vous avez vu que les messagers étaient quoi? Étaient infaillibles en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne la législation. Maintenant, nous allons voir, inshallah ta'ala, qu'il y a des choses que les messagers font, mais qui ne se contredit pas avec l'infaillibilité. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver aux messagers et qui, ces choses-là, ça ne se contredit pas avec l'infaillibilité. Une seconde, inchallah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a parmi ces choses-là, inchallah ta'ala? Quelles sont les choses qui... Est-ce que vous m'entendez, Fawzi? Quelles sont les choses qui, inchallah ta'ala, ne se contredisent nullement avec l'infaillibilité des messagers? Ces choses-là, on doit les connaître. Comme ça, yani, pour qu'on n'ait pas des ouswes, on dise pourquoi, yani, les messagers sont infaillibles alors que, yani, il leur est arrivé telle ou telle chose. D'ailleurs. Donc, parmi les choses qui peuvent leur arriver, c'est quoi? Regardez par exemple Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, lorsque les anges sont venus chez lui et qu'ils sont venus sous forme humaine, non. Il n'avait pas remarqué que c'était des anges. Mais ensuite, quand il a su que c'était des anges et qu'il ne voulait pas manger, car les anges ne mangent pas, qu'est-ce que c'est là? Non. Il a eu peur. Comme a dit Allah Ta'ala, فَلَمَّا رَعَ أَيْدِيهُمْ أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُوا إِلَيْكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا. Puis lorsqu'il vit que leurs mains, les mains des anges, ne l'approchaient pas de manger, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, n'aie pas peur. Nous sommes envoyés au peuple de Lot. Donc le fait d'avoir peur de quelqu'un, hein, ça ne se contredit pas. C'est une peur naturelle. La peur qui est interdite, c'est la peur qui rentre dans le shirk. Mais une peur naturelle, comme avoir peur de quelqu'un, ou la d'un lion, ou tout ça, ce n'est pas interdit, bi'idhnillahi ta'ala. Et Moussa alayhi salam, dans Sourate Al-Kahf. Vous connaissez l'histoire dans Sourate Al-Kahf, où lorsqu'il a rencontré le Khadir et qu'il lui avait demandé la permission de suivre, et l'autre a accepté, il lui a dit, à condition que tu ne me poses pas de questions, à condition que tu sois patient. Il a dit, d'accord, je serai patient. Ensuite, quand il a vu le Khadir faire des choses qui apparemment, yani, contredisaient la sharia, comme le fait de trouer la barque, ou bien de tuer l'enfant, ou bien, yani, après avoir construit le mur, il a dit, pourquoi tu n'as pas demandé un salaire alors que tu n'as pas d'argent? Al-Muhim, que lui a dit le Khadir? Il lui a dit, Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'a sabra. Je t'ai pas dit que tu ne pouvais pas patienter? L'autre lui dit, le Khadir lui dit, Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Donc le fait de dire je vais patienter et ensuite ne pas pouvoir patienter, ça ne se contredit pas avec l'infaillibilité des messagers. Vous avez compris? Le fait de dire je vais patienter et ensuite il ne patiente pas, non, dans une chose pareille comme celle-là, de ne pas poser des questions, ça ne se contredit pas avec quoi? Avec l'infaillibilité des messagers. Aussi, ce qu'on a rapporté la fois passée de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, que lorsqu'il est parti parler à Allah subhanahu wa ta'ala, et avait laissé son frère Haroun. Naam, avait laissé son frère Haroun avec le peuple. Et que quand il est revenu, naam, avant de revenir, Allah ta'ala lui a appris que son peuple, qu'il avait laissé avec son frère, avait adoré le veau. Il s'est énervé. Il est revenu très énervé. Mais quand il a vu des gens en train d'adorer le veau, il a vu le veau, il s'est vraiment énervé au point où quoi? Il a jeté des tablettes. Non, il a jeté les tablettes. Si, le fait de jeter des tablettes, comme dans le verset qui suit, et lorsque Moïse retourne à son peuple fâché et attristé, il dit, pendant mon absence, avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il jeta les tablettes et prit la tête de son en la tirant à lui. Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la jetant à lui. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Moussa alayhi salam fit deux choses. Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère. Mais surtout, il jeta les tablettes. Les tablettes, qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles contiennent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, il a fait ça dans quelles circonstances? Il a dit, un peu plus haut, fâché, attristé. Et il était dans une grande colère. Au point où le prophète, alayhi sallam, a dit quoi? Il a dit, l'information n'est pas comme la réalité. Car Moussa, alayhi sallam, quand il a été informé, il s'est énervé, c'est tout. Mais quand il a vu la réalité, il n'a pas pu se contenir au point où il a jeté les tablettes et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné car il était dans un état où il ne se contrôlait plus. Sinon, jeter les tablettes dans un état normal serait vraiment grave. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala yani, ne l'a pas blâmé. Pourquoi? Car, comme vous avez vu ici, ça découle d'une grande quoi? D'une grande colère. Ça découle d'une grande colère. Et le fait de rentrer dans une grande colère ne se contredit pas avec le fait d'être infaillible. Non. Donc, le fait de tomber dans une grande colère. Et par conséquent, de faire quelque chose dans la grande colère, non, qui, si c'était une petite colère, ça aurait été grave. Ça ne se contredit pas avec l'infaillibilité. Pourquoi? Car lorsqu'on est dans une grande colère, on a comme une barrière entre nous et le raisonnement. On ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de talaq. Il n'y a pas de talaq dans la grande colère. Il n'y a pas aussi, ni la vente, là tu vends quelque chose, là tu achètes quelque chose. Dans la grande colère, ça devient invalide. Un mohim. On a Adam alayhi salam. Non. Avant lui, qu'est-ce qu'il y a? Non. On a Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, quand il a oublié. Qu'est-ce qu'il a oublié? Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, et quand il a créé, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a essuyé son dos. Et de son dos est tombé toute sa progéniture, toute sa descendance. Chaque âme qu'allait Allah subhanahu wa ta'ala créer, elle ne serait créée que de la descendance de Adam. Vous savez, un être humain ne peut pas venir d'un autre que Adam. Donc Allah ta'ala, lorsqu'il a essuyé le dos de Adam, lorsqu'il a créé, lui a essuyé son dos, toutes les âmes qui allaient être créées, Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, sont tombées de son dos. Et Adam alayhi salam a vu que parmi ceux qui allaient être créés de sa descendance, il a vu quelqu'un qui avait entre ses yeux, comme de la lumière. Plutôt tout cela, Allah Ta'ala a mis, toute sa descendance, Allah Ta'ala a mis entre ses yeux, entre leurs yeux, comme de la lumière. Ensuite, il les a exposés à Adam. Adam alayhi salam a dit, c'est qui cela? Allah Ta'ala lui a répondu, ce sont tes enfants, ta descendance. Alors, Adam alayhi salam a remarqué, parmi ceux-là, quelqu'un qui lui a plu, il a attiré, yani, son attention. Surtout qu'il avait beaucoup de lumière entre ses yeux. Il a dit, Ya Rabbi, qui c'est celui-là? Et celui-là exactement, c'est qui? Il lui a dit, Allah Ta'ala lui a répondu, Hada, yani, c'est un homme qui va venir parmi les dernières générations. Il s'appelle Daoud. Donc vous remarquez que Daoud n'est pas encore né. Il lui reste des générations pour qu'il naisse et son nom est déjà prêt. Il s'appelle Daoud. Donc Allah Ta'ala sait même le nom de ton nom 500 ans ou 1000 ans. Là. Il sait quel est le nom que tu vas lui donner. Adam alayhi salam lui a demandé, il lui a dit, ô mon Seigneur, quel âge aura-t-il? Combien qu'il va vivre? Il lui a répondu, il lui a dit 60 ans. Il a dit, Ya Rabbi, ô mon Seigneur, ajoutez-lui alors 40 ans de mon âge. Adam alayhi salam a vécu 1000 ans. Il lui a dit, Ya Rabbi, ajoutez-lui 40 ans de mon âge. Comme ça va faire combien? Ça va faire 60 ans. Lorsque maintenant Adam alayhi salam allait mourir et que l'ange de la mort est venu lui le voir pour lui ôter son âme, Adam alayhi salam avait fait des calculs. Alors qu'est-ce qu'il a dit à l'ange de la mort? Il lui a dit, écoute, ne me reste-t-il pas encore 40 ans de mon âge? Est-ce qu'il ne me reste pas encore 40 ans? L'ange de la mort lui a dit, est-ce que tu ne les as pas donnés à ton fils Daoud? Tu ne les as pas donnés à ton fils Daoud? As-tu oublié que tu as donné 40 ans à Daoud alayhi salam? Il a dit, Fajahada Adam. Adam a nié, a dit non. Il a dit le hadith, c'est pour ça que sa progéniture, c'est-à-dire nous, on nie. Ensuite il a dit, Wanasiya Adam. Et Adam a oublié qu'il avait donné 40 ans. Il a dit, le hadith a dit, sa progéniture a oublié. C'est pour ça que nous aussi, on oublie. Ensuite, il a dit, et Adam a fait une faute, et sa progéniture fait aussi des fautes. Le fait ici qu'il ait oublié, qu'il avait donné 40 ans à son fils Daoud, ça ne se contredit pas avec quoi? Avec l'infaillibilité, infaillible. Pourquoi? Parce que l'oubli, c'est humain. Non. Toute personne peut oublier, même si c'est un messager. On a un autre messager, on a un autre prophète qui une fois, il s'est senti fatigué. Il a vu un arbre, il est allé s'adosser à cet arbre. Après s'être adossé à cet arbre, une fourmi est venue et l'a piqué. Ou bien disons l'a mordu. Il s'est énervé. Et il a demandé qu'on lui ramène le feu, quelque chose qui, comme un chalumeau comme ça qui brûle. Et il a décidé de brûler, yani, le trou de l'arbre. Car il y avait un trou dans l'arbre, et c'est dans ce trou que vivaient quoi? Vivaient des fourmis. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, lui a dit, comment? À cause d'une fourmi qui t'a mordu, tu as brûlé une communauté de fourmis une communauté de fourmis qui me font le tesbih, qui me glorifient. Il a dit, si c'était obligé de faire, alors une, puisque vous voulez vraiment aller prendre la revanche, vous voulez vraiment prendre la revanche, alors une, il faut tuer une seule fourmi, car une seule fourmi, fourmi t'a mordu, pas toutes les fourmis. Le hadith se trouve dans le Bukhari Muslim. Donc, le fait que yani, quelqu'un veuille prendre la revanche et yani, s'énerve et sente du mal que quelque chose ou là, un insecte le morde, ça c'est humain et ça ne se contredit pas avec le fait que les messagers sont infaillibles. Les messagers sont infaillibles. Non. D'ailleurs, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, si on revient à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière de Salat al-Dhor, normalement, Salat al-Dhor, à la deuxième rak'at, on s'assoit, on fait le teshahoud et on se lève. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé, n'a pas fait le teshahoud. S'est levé et n'a pas fait le teshahoud. Pourquoi? Par oubli. Une fois, alayhi wa sallam, il a fait Salat al-Asr, Salat al-Asr qui est 4 rak'at. Combien qu'il a fait? Il a fait seulement 3 rak'at, il a oublié une. Et il a dit salamu alaykum. Une fois, il a fait Salat al-Dhor, c'est combien Salat al-Dhor? C'est 4 rak'at. Il en a fait 5. Il a ajouté une cinquième. Une fois, Salat al-Dhor ou bien l'Asr. Les savants ont dit ou bien Salat al-Dhor ou bien l'Asr. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié seulement 2 rak'at et il a dit salamu alaykum. Il est allé comme ça s'asseoir, s'adosser, comme ça devant le mimbar. Et quelqu'un qui a les mains longues, les bras longs, on l'appelait Douliédé parce qu'il avait les bras longs, il est venu dire au prophète Aslan, Rasulallah, qu'est-ce qui s'est passé? La salat, est-ce qu'elle a raccourci ou là tu as oublié ou là c'est quoi? Donc le prophète Aslan n'a pas su qu'il venait de sortir de la salat de 2 rak'at seulement au lieu de 4. Donc, ces choses-là ne se contredisent pas avec le fait que le prophète Aslam est infaillible. D'ailleurs, il y a un hadith qui est faible. Il y a un hadith qui est faible, qui se trouve dans le Mawta de l'imam Malik, rahimahullah, où il est dit dans un hadith faible que « Je n'oublie pas, mais Allah Ta'ala me fait oublier pour que je légifère. Je n'oublie pas, mais Allah Ta'ala me fait oublier pour que je légifère. » Ce hadith est faible car il y a un hadith authentique dans Muslim qui dit « Je suis un être humain comme vous, j'oublie. Si j'oublie, rappelez-moi. Je suis un être comme vous, j'oublie. Quand j'oublie, rappelez-moi. » Ensuite, si le prophète Hassan n'oubliait pas, imaginez que le prophète Hassan n'ait pas oublié ces choses-là dans la salat. Et maintenant, quelqu'un de nous va faire la prière. Et il va oublier, il va faire 5 au lieu de 4. Ou bien 2 au lieu de 4. Ou bien va oublier le teshahoud. Ou bien va oublier yani, un ruku, un sujoud, etc. Comment qu'il va faire pour réparer? Comment qu'il va faire? Il ne sait pas. Impossible que tu saches. Ce sont des choses qui viennent de la révélation. Tu ne peux pas t'asseoir, prendre une calculatrice. Tu vas prendre une calculatrice, tu vas dire, je vais faire des calculs, et ensuite je vais voir comment réparer la salat. Tu ne peux pas. C'est une révélation. Il faut un verset ou un hadith. Alors on dit quoi? On dit, alhamdoulilah, que Allah Ta'ala a fait oublier son prophète, pour que justement, il nous montre comment réparer, pour qu'il légifère la réparation de la salat. Donc c'est une ni'ma qu'il ait oublié. Naam. Tayyib. Même que les messagers et les prophètes peuvent quoi? Peuvent même se tromper quand ils jugent entre les gens. Ça ne se contredit pas, et s'ils se trompent, ça ne se contredit pas avec le fait qu'ils sont infaillibles. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ce qui se contredit, et ce qui n'est pas permis chez eux, c'est que ils ne jugent pas avec la charia. Allah subhanahu wa ta'ala, ça bien sûr, ça se contredit. Ça se contredit. Mais le fait que je ne sache pas où est la vérité, et avec qui est la vérité, ça ne se contredit pas. Car les messagers ne savent pas ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour cela que le prophète Al-Islam a dit dans un hadith authentique, il a dit, il y a des gens qui... Il a dit, avant cela, il a dit, je suis un être humain, viennent chez moi, pour que je juge entre eux. Il a dit, mais il arrive que l'un des deux adversaires, l'un des deux, soit quelqu'un qui sache parler, quelqu'un qui sache donner les preuves. Il a dit, alors, moi je juge d'après ce que j'écoute. Et il est possible que je donne raison à cette personne qui sache parler. Alors que l'autre qui n'a pas parlé ou qui a mal parlé, c'est lui qui a raison. Il a dit donc, si jamais je donne quelque chose, je donne un droit à celui qui a bien parlé, alors qu'il ne mérite pas, c'était lui le fautif, il doit considérer comme je lui ai donné une partie de feu. C'est pas une partie de son droit, mais une partie de feu qu'il a mis sous les selles et il est parti avec. Comme ça, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari. Donc, le prophète, sallam, deux personnes vont chez lui et chacun dit, ya Rasulallah, c'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui a tort. Le prophète, sallam, il essaye de chercher des preuves, etc. Ensuite, s'il n'y a pas, il écoute seulement. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et ensuite, il juge. Il dit, par exemple, c'est toi qui as raison, et il lui donne, par exemple, la chose. Et il est possible que il a donné la chose à celui qui ne méritait pas. Donc c'est possible que ça arrive d'un prophète à l'islam. Pourquoi ? Car les prophètes ne savent pas ce qu'il y a dans le cœur. Ils ne savent pas que celui-là c'est un menteur. Et que dans son cœur, il sait que c'est lui le fautif, etc. Mais, où les messagers ne se trompent pas, il ne peut pas se tromper. C'est-à-dire, par exemple, tu mérites un tiers, dans la charia, il te dit, tu mérites la moitié. Ou bien, par exemple, si on te crève un œil, par exemple, il faut donner 50, par exemple, 50 chameaux, il va dire, on te donne 30. Là, c'est impossible qu'il se trompe dans la charia. Mais il se trompe dans la personne. Il peut se tromper dans la personne, lui donner raison, alors qu'elle n'a pas raison. Là. D'ailleurs, c'est arrivé avant cela, c'est arrivé à Daoud alayhi salam. On a parlé la fois passée. Des deux femmes qui, chacune d'elles avait un bébé et sont parties comme ça dans une forêt et qu'un loup a pris l'un des deux bébés. Et chacune des deux femmes a dit, celui-là c'est mon bébé. Et elles sont allées, chez Daoud alayhi salam pour qu'il juge. Il juge entre elles. Et il a entendu celle-là. Et il a entendu l'autre, c'est-à-dire la plus âgée et la plus jeune. Et il a donné raison à la plus âgée. Alors que c'était la plus jeune qui avait raison. Car après, elles sont allées chez Souleymane alayhi salam, et il les a entendues, il a dit, ramenez-moi une épée pour que je le coupe en deux. Alors la plus jeune a dit, qui est Souleymane, c'est son fils, c'est pas le mien. Alors il a dit, puisque tu as dit c'est son fils, donc c'est ton fils. Puisque tu as parlé comme ça, tu as dit c'est son fils, donc c'est ton fils à toi. Et il l'a donné à celle-là, la plus jeune. Donc Daoud alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est trompé, il croyait que c'était elle qui avait raison, la plus âgée. Pour prouver que les messagers peuvent se tromper, quand ils jugent entre les gens. Donc maintenant, on va ajouter une chose, ou là, deux choses aussi. Une seconde, j'arrive à ça. Quant à l'infaillibilité. On vient de parler de l'infaillibilité. On a dit qu'ils étaient infaillibles. Donc quoi? Donc, il y a une la charia. Les messagers aussi sont infaillibles dans les grands péchés. Les messagers font des péchés. Mais ils font des petits péchés, c'est tout. pas les grands péchés. Et même les petits péchés, ils n'en font que, il y en a des petits péchés qui sont propres. Ils ne font pas des petits péchés, il y en a qui peuvent être sujets à des critiques. Je donne un exemple. Voler les petits péchés, ça, j'ai pas volé plus de 1,25 g d'or, mais j'ai volé juste une date. Voler une olive comme ça. Là, je rentre chez l'épicier, et lui il ne voit pas, je prends une olive, je la mange. Et moi, ça rentre dans les petits péchés. Mais ce sont des petits péchés qui sont pas bien, sujets à critique. Non, ça enlève ce qu'on appelle en arabe le moloa, le bon comportement. Ça, les messagers ne les font pas, ce genre de petits péchés. Mais ils font les autres petits péchés. Et tiens, quant aux juifs ou aux chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont dit sur les péchés des messagers. Non, une seconde, je cherche le verset. Ça y est. Donc, quant aux juifs ou aux chrétiens, ce qu'ils ont parlé dans leur livre, ce qu'il y a dans leur livre, c'est des monstruosités. Vraiment, vraiment, vraiment des monstruosités. Ensuite, pourquoi s'étonner des juifs, puisque c'est connu d'eux que ce sont les assassins des messagers. Les assassins des messagers. Et je vous ai cité un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve dans Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani, qu'il y a un hadith où il est dit que une fois, en une journée, les juifs ont assassiné 70 messagers. 70 messagers en une seule journée. Donc, là, on prend quoi aussi comme faïda ? On prend comme faïda que c'est possible que dans une seule ère, subhanallah al-azim, il y ait 70 prophètes à la fois. Il est possible que Allah Ta'ala envoie 70 prophètes yani, qui sont vivants dans le même monde. Ils sont tous vivants en même temps, imaginez. Ils ont été tués le même jour, donc ils étaient vivants. Donc il y avait 70 messagers, le prophète, une fois dans le monde, il y a eu 70 messagers qui vivaient tous à la fois. Pourquoi j'ai dit ça? Des fois, les gens s'étonnent. Ils disent, normalement, il y a un seul messager pour... jusqu'à ce qu'il meure celui-là pour que vienne un autre. Alors que non. Il est possible qu'il soit deux à la fois, trois, quatre. Et ce hadith prouve que il est possible qu'il y ait 70 à la fois. 70 à la fois. Le moyen, si les juifs peuvent tuer 70 messagers en un jour, donc, yani, c'est pas étonnant qu'ils disent d'eux des choses vraiment graves dans leur livre. Non. Et j'ai ici des choses qui sont en arabe, qu'il y a dans leur livre. Non. Entre autres que Harun alayhi salam. Non. Que Harun alayhi salam, c'est lui. Non. C'est lui qui a construit le veau. A'udhu billah. C'est lui qui a construit le veau. Et que même il a adoré le veau. Il a adoré le veau avec les autres. Et ça, vous pouvez le trouver dans Ishaq. Verset numéro 1. Min Safar al-Khuruj, d'après le Safar al-Khuruj des Juifs. Entre autres que Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a proposé Sarah au roi qui a voulu la prendre. Vous connaissez l'histoire, hein? Il lui a proposé Sarah pour qu'il fasse avec elle la fornication, pour que lui ne lui fasse pas de mal. Alors que chez nous, alhamdoulilah, dans Sahih al-Bukhari, c'est que ce roi a pris Sarah de force. Il l'a pris de force et elle a fait des douas contre lui. Et vous connaissez l'histoire. Allah Ta'ala l'a sauvé et lui a même donné Hajar. Il lui a donné Hajar comme cadeau. Subhanallah. Alors que chez eux, non. C'est l'autre qui l'a proposé à Audhu Billah. Et ça se trouve dans Ishaq 12. Naam. Numéro 14, verset numéro 14 de Safar Tekwin. Et chez eux aussi que Lot alayhi salam a bu de l'alcool. A bu du vin. Ça se trouve dans Ishaq numéro 19, verset numéro 30. Non. Et que Yaqub alayhi salam a volé. C'est un voleur. Ça se trouve dans Ishaq 31, verset numéro 17. Et que quelqu'un qui s'appelle Rawabin a fait la fornication avec la femme de son père. La femme de son père. Non. Et que Yaqub savait cela, il n'a rien dit. Ça se trouve dans Ishaq 35, verset 32. Et que Suleyman, Salomon, Suleyman alayhi salam, a apostasié à la fin de sa vie. Et il est allé adorer quoi? Il est allé adorer les statues à Oudoubillah. Ça se trouve dans Ishaq 11, adet numéro 22. Safar al-Mulouk. Non. Et chez les chrétiens, la même chose à Oudoubillah. Chez les chrétiens, la même chose à Oudoubillah dans leur Bible. Dans leur Bible qui a été falsifiée. Car c'est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala dise des choses dans son livre. Disent des choses pareilles dans son livre. Mais ça a été yani, falsifié. Regardez par exemple ce qu'ils disent dans la Genèse 19, et verset 30. Regardez ce qu'ils disent. Lot quitte à Tsoar. Il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Lui et ses deux filles. Donc, Genèse 19, verset 29. Non. L'aîné de ses filles dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous. » Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage dans tous les pays. Viens, elle a dit donc, verset 32, « Faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de nos suites. » Dans le 33, Genèse 33 verset 19 verset 33, elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit là et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit derrière avec mon père. J'ai couché avec mon père. L'inceste. Faisons-lui boire la race de notre père. Verset 35. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui, avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Elles devinrent enceintes de leur père Lot. Lot, masha'Allah, un messager parmi les meilleurs messagers. Subhanallah al-Azim. Il fait l'inceste avec ses deux filles. Subhanallah al-Azim. A'udhu billah, mishtan rajim. Comment des personnages que Dieu a glorifiés, honorés et bénis peuvent-ils être issus d'unions illicites? Comment des personnages que Allah subhanahu wa ta'ala glorifie, honoré et béni, peuvent-ils être issus d'unions illicites? Ensuite, comment les Hébreux, ceux qui disent maintenant les Juifs, comment peuvent-ils encore prétendre qu'ils sont un peuple élu, puisque Allah ta'ala leur a préféré un peuple issu d'une union illicite? Dans cette optique, le dogme du peuple élu est tombé à l'eau. Là, il est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il vient d'une union. On va voir leur ascendance. C'est une union de quoi? Une union de zina. Une union d'inceste. Oulayyadu billah. Donc, c'est une nation qui vient de l'inceste. Oulayyadu billah. Mais chez nous, alhamdoulillah, Lot alayhi salam, fait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a combattu la turpitude de son peuple, l'homosexualité, et le Coran témoigne de sa sainteté. Cette sainteté que les auteurs de la Bible ont souillée par leurs mensonges. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de Lot alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, dans cette Anbiya, il a dit, et l'autre, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens de mal, des pervers. Est-ce que vous voyez le verset de Muslim? Et l'autre, alayhi salam, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala lui fait des éloges. Nous lui avons apporté la capacité de juger et de savoir. Et nous l'avons sauté de la cité où se commettaient les vices. C'est pas lui qui commettait les vices, c'est la cité. Ces gens-là, c'était vraiment des gens de mal, des pervers. C'est pas lui qui était pervers. D'ailleurs, même son peuple, le peuple de Lot, reconnaissait cela. Même le peuple mécréant de Sodome témoignait de la pureté du prophète, Lot alayhi salam, et de sa famille. La preuve, qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant d'eux, ils ont dit: expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté. Naam. Ils ont demandé à leur peuple d'expulser Lot de la ville. Pourquoi? Il a dit: cette famille, la famille de Lot, ce sont des gens qui sont très attachés à la pureté. Vous voyez, même le peuple de Lot a reconnu que Lot et sa famille étaient des gens purs. Regardez ce que dit le Coran de Lot, et regardez ce que dit l'évangile de Lot, et ce que dit yani, la Torah de Lot, alayhi salam, a'oudou billah, des choses que yani, la raison n'accepte pas. Non, la raison n'accepte pas. On revient un peu en haut pour dire, déjà ça fait presque une heure, on revient donc un peu plus haut pour dire que les messagers, non, les messagers peuvent faire des péchés. Mais ils font quoi? Ils font seulement les petits péchés. Ils ne font pas les grands péchés. Une seconde, je prépare les versets. Donc la plupart des savants, disent que quoi? Disent, il y en a presque tous les savants, peut-être il n'y a pas, peut-être disent que les messagers, ne font jamais les grands péchés. Mais que par contre, ils peuvent faire les petits péchés. Ils font les petits péchés, mais les petits péchés, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas en contradiction avec le bon comportement. On va donner quelques versets qui prouvent que yani, il peut faire des petits péchés. Voyez, regardez ce verset par exemple. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Adam de ne pas manger de cet arbre, qu'est-ce qui s'est passé? Puis le diable le tenta en disant: ô Adam, est-ce que tu veux que je t'indique l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Est-ce que tu veux? Je vais t'indiquer qu'il y a un arbre de l'éternité. Si jamais tu manges de cet arbre, tu resteras éternel. Jamais tu ne mourras. Tu seras alors dans un royaume impérissable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Et beaucoup de savants ont dit que Ève a mangé avant Adam. Et d'autres ont dit, même si c'est lui qui a mangé, c'est elle qui l'a poussé. C'est elle qui l'a poussé à ce qu'il mange. El-Mouhim, les deux mangèrent. Alors, Allah Ta'ala, pour les punir, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a fait apparaître leur nudité. Allah Ta'ala, yani, leur a enlevé les vêtements qu'ils avaient. Et ils se sont trouvés tout nus. Alors, ils se mirent, Seigneur, et ils s'égarent. Donc, remarquez avec moi deux choses. La première, quoi? La première, c'est que Allah Ta'ala a cité clairement que Adam a désobéi. Il a fait quoi? Un péché. Adam désobéit ainsi à son Seigneur. Et même il s'égare. Donc c'est un verset clair que Adam a désobéi et qu'il a fait un petit péché. La deuxième des choses qu'on remarque, c'est que quand Adam a.s. a fait le péché, Allah Ta'ala l'a puni de quoi? L'a puni en lui montrant sa nudité, en le découvrant. Donc, le fait qu'une personne se découvre, c'est quoi? C'est un péché. Le fait qu'une personne se découvre, c'est un péché. Mieux que cela ou alors pire, plus on se découvre et plus on est dans le péché. Plus une personne, quand elle sort dans la rue, elle se découvre dans ses vêtements, qu'ils soient homme ou femme, plus c'est une preuve qu'on est noyé dans le péché et qu'on est de plus on s'est découvert, plus on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va prendre aussi, on va prendre le contraire. Plus une personne aime se couvrir quand elle sort dans la rue ou elle est avec des gens étrangers, plus c'est une preuve d'obéissance à Allah, de piété. Plus une personne veut se couvrir et ne rien montrer de son corps, plus c'est une preuve de quoi? D'obéissance et de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants ont dit, d'après le hadith qu'il y a dans le Bukhari, que le prophète Aslam, Omar Ukhtab, il l'a vu dans le rêve, qu'il avait quoi? Un vêtement très long. Que même lorsqu'il marchait, le vêtement, Yanni suivait avec lui de derrière, comme ça, tellement il est lent. Ils ont dit, c'est quoi? Ils ont dit, c'est, Yanni, taqwa. Naam, taqwa, ou l'ilm. Al-muhim, c'est la piété. Un vêtement long, dans quoi? Dans le rêve, c'est une preuve de la piété. Et un vêtement court, dans le rêve et dans la réalité, dans la réalité, on a vu, c'est le péché, et dans le songe, le vêtement court, c'est une preuve que il n'y a pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se ressaisir. C'est pour cela que si dans le rêve, tu te vois avec un vêtement court, vraiment court, ça veut dire qu'il y a la piété qui manque. Tu dois travailler ta piété, ta taqwa bi'idhni ta'ala. Alors que si tu te vois dans le rêve tout nu, ça veut dire que c'est un peu grave. Il faut se ressaisir. Alors qu'en est-il maintenant si la personne se voit toute nue, et si elle se voit en train de faire des choses, ça veut dire aussi, yani, c'est vraiment grave, et qu'il faut travailler sa piété, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, donc Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit Allah ta'ala de lui? Il a dit, il a désobéi, ça. Regardez Nuh alayhi salam, ce que dit de lui Allah ta'ala, et Nuh invoqua son Seigneur en disant, ô mon Seigneur, certes mon fils et de ma famille et ta promesse est vérité, tu es le plus juste des juges. Quand Allah ta'ala a voulu noyer, yani, la ville où était Nuh et noyer tout le monde avec lui, et que Nuh a construit la barque, etc., et que son fils a dit, moi je vais monter sur le sommet d'une montagne. Il a vu comme ça une montagne vraiment haute, comme les Alpes, où là il a dit, c'est impossible que l'eau puisse arriver jusque là-bas. Il a dit, moi je vais monter là-bas et je vais me cacher. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'eau qu'elle monte jusqu'à ce que même la montagne, yani, elle se noie elle-même. La montagne, yani. Et Nuh alayhi salam a su que son fils allait se noyer. Il a fait la doua. Ya Rabb, ô mon Seigneur, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu as promis que tu allais les noyer tous. Je sais que c'est vérité. Mais tu es le plus juste des juges. Et ne le noie pas. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a répondu, Ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme, le coffre. Ne demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Écoute, Noé, il n'est pas de ta famille. Ton fils, celui-là, c'est tragiquement, car il est né de ton accouplement, toi, avec ta femme. Il est sorti par mon décret, donc tu es le père biologique. Naam, c'est tout. Mais chez moi, il n'est pas de ta famille. Pourquoi? C'est un mécréant, c'est un mouchrik. Il ne peut pas être ta famille. Il a dit, ne demande pas, yani, des choses dont tu n'as pas connaissance et ne sois pas des nombres des ignorants. Ne sois pas, ça veut dire, ne fais pas cette faute-là. Donc, il lui a montré que tu as fait une faute. Alors, Nuh lui dit, Seigneur, Je cherche ta protection quand tout demande ce dont je n'ai pas connaissance. Et si tu ne pardonnes pas et tu ne fais pas miséricorde, je serai des nombres, au nombre des perdants. Ça veut dire qu'il a reconnu qu'il a fait une faute et il demande pardon. Et Allah, si tu ne pardonnes pas la faute que je viens de faire, et si tu ne fais pas la rahma, je serai vraiment perdant. Je serai vraiment perdant car j'ai fait une faute. Il a fait une faute en demandant à ce que Allah Ta'ala sauve son fils, alors que Allah Ta'ala lui a dit que maintenant tous les kuffars, je vais quoi les noyer. Donc il a reconnu qu'il avait fait une faute, bi'idhnillah Ta'ala, mais il a demandé pardon, comme vous avez remarqué, il a demandé pardon. Et Moussa alayhi salam, lorsque Allah Ta'ala dit de lui, il entra dans la ville à un moment d'inattention, un moment de distraction, il est rentré dans la ville. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse, qu'est-ce qu'il fit? Il lui donna un coup de poing qui l'acheva. Ensuite, Moïse reconnut, il dit, cela est l'œuvre du diable. Le diable est vraiment un ennemi, un égareur évident. Moussa alayhi salam, comme vous savez, il était très fort. Très fort. Même la fille, une fois, il était comme ça dans sa ville. Ou alors, et il y avait un puits. Ce puits était caché, où là on avait posé dessus un gros caillou, un gros rocher. Et les gens d'habitude, quand ils voulaient faire sortir de l'eau de ce puits, ils attendaient qu'il y ait du monde. Il faut qu'il y ait à peu près 10, 13 divergences. Certains ont dit 10, 13 ou 18 hommes pour qu'ils peuvent déplacer le rocher pour boire, pour sortir de l'eau. Moussa alayhi salam, quand il a vu que ces gens-là voulaient boire, lui-même tout seul, il a pris le rocher, il l'a déplacé. Il a pris le rocher, il l'a poussé, il l'a déplacé. C'est pour ça que l'une des filles là-bas, qu'il a remarqué, elle a dit à son père, elle lui a dit, si je te propose de le faire travailler chez nous, dans deux attributs, elle a dit, inna khayra man istajarta al-qawi al-amin. Al-qawi al-amin, elle a cité al-qawi, le fort, elle a dit le fort. Donc Moussa était très fort. La preuve ici, il donna un coup de poing à quelqu'un, il est tombé mort. Un coup de poing, ça ne tue pas. Quand tu frappes quelqu'un d'un coup de poing, le maximum peut-être évanoui. Si tu le frappes sur le menton, mais tuer quelqu'un avec un coup de poing, c'est vraiment rare. Il faut être vraiment quelqu'un de très fort. Ici, il lui donne un coup de poing, il l'acheva. Il l'acheva. Ensuite, il a regretté. Il a fait une faute. L'âme, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Je me suis fait du tort à moi-même. Alors qu'il avait fait du tort à quelqu'un, il l'a tué. Mais tuant quelqu'un, c'est toi qui vas aller en enfer. Non, si Allah Ta'ala ne te pardonne pas. Donc en fait, tu t'es fait du tort à toi-même. Mais il demanda pardon. Et Allah Ta'ala lui pardonna, car c'est lui le pardonneur. Non. Vous avez remarqué à chaque fois, quand ils font des fautes, les messagers, ils demandent pardon. Vous avez remarqué à chaque fois, ils demandent pardon à la fin. Et Daoud, alayhi salam, David, alayhi salam, qu'a dit Allah Ta'ala de lui? Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre tes brebis à ses brebis. C'est Daoud qui dit ça. Il dit à l'un des deux qui est venu, quoi? Qui est venu, il y en a pour qu'il juge entre eux. Mais une seule personne est venue. Il lui a dit que je connais quelqu'un qui a 99 brebis, moi j'en ai une, il m'a pris, donc maintenant lui il a 100, moi je n'en ai pas. Que lui a dit Daoud? Il lui a dit, cette personne a été injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Il lui a dit, beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés. Sauf ceux qui croient, pendant ils sont bien rares. Mais il s'est trompé. Pourquoi? Il s'est trompé en quel sens? En ce sens que, normalement, il ne dit pas ça. Mais il demande à cet homme-là de me ramener ton adversaire pour que j'entende de lui comme j'ai entendu de toi. Mais Daoud alayhi salam s'est empressé Et il a donné le jugement. Il lui a dit, il a été injuste. Il a été injuste. Mais c'était une faute en fait. Non, il ne faut pas se hâter. Il faut aussi écouter de l'autre aussi. C'est pour ça que Daoud alayhi salam pense alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Pense, c'est pas pense. Normalement, c'est a été sûr. A été sûr. On a dit l'autre fois que zanna, zanna, ça veut dire être sûr des fois. Donc, il a su que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Donc, il tomba prosterné et se repentit. Pourquoi il s'est repenti? Donc, c'est une preuve qu'il a fait une faute. Sinon, il ne se repent pas. Non. Donc, ça aussi, c'est une preuve qu'il a fait une faute. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala, qu'a-t-il dit de lui? Regardez dans ce verset. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah Ta'ala t'a rendu licite? Le prochain chose, une chose de licite, il a dit c'est interdit. Khlas, à partir d'aujourd'hui, c'est interdit pour moi. Qu'est-ce qu'il a interdit? Il s'est interdit le miel. Il a mangé du miel chez une de ses femmes. Quand il est allé ensuite chez Aïcha, elle lui a dit tu as une mauvaise odeur dans ta bouche. Ensuite, il est allé chez Hafsa, elle a dit tu as une mauvaise odeur dans ta bouche. Alors que Hafsa et Aïcha, était de connivence. Elles ont dit, écoute, si jamais il vient chez toi, dis tu as une mauvaise odeur. Si jamais il vient chez toi, dis toi aussi tu as une mauvaise odeur. Alors il a dit, par Allah, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus manger le miel. Et Allah Ta'ala fait descendre le verset. Ô prophète, pourquoi, en cherchant l'agrément de tes femmes, tu as interdit quelque chose de halal? Faut pas faire ça. C'est haram d'interdire le halal. Il ne faut plus refaire cette faute, mais Allah est pardonneur. Et beaucoup d'exégètes ont dit qu'il n'avait pas interdit le miel, mais interdit Maria. Maria. Non. Une des fils, on appelle ça mère de son fils. On ne dit pas d'elle épouse, comme ça on dit mère de son fils. C'est la mère de son fils. C'est la mère de Ibrahim que l'autre lui avait donné d'Égypte. C'était une copte. Mais elle est rentrée dans l'islam et musulmane. Et c'était pas son jour et elle est rentrée dans la maison de Aïcha ou de Hafsa, l'une des deux, et il a eu avec elle un rapport. Ensuite, quand les autres ont su, elle a dit pourquoi tu fais ça? Donc il a dit à partir d'aujourd'hui, c'est haram pour moi cette femme. Jamais je ne vais plus la toucher. Allah Ta'ala lui a dit pourquoi tu recherches tes femmes, tu dis c'est interdit. Elle n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite. Tu ne peux pas la rendre illicite. C'est pas possible. Et le prophète Islam a demandé pardon cette phrase. Et lorsque Allah Ta'ala dit de lui, écoutez ce qu'il dit de lui. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à des chefs de kuffar, des gens disons, de haut statut. C'est-à-dire comme ça, des kuffar, mais pas n'importe quel kuffar. Pas un mécanicien ou un boucher ou là, non. Des fois, un kafir, c'est par exemple le président de la République, c'est ceci, c'est cela. Donc, il y a vraiment un impact. Si jamais ce kafir, ou un grand riche, un richissime, celui-là, c'est pas comme n'importe qui. C'est pas comme le cordonnier qui n'a pas beaucoup de statut. Celui-là, le grand, ce qui va se passer, il va attirer beaucoup de gens avec lui. Car il a un impact sur les gens, sur la société. Donc, une fois alors que le prophète Islam était en train de faire statut haut, il y a un aveugle qui est venu vers lui, qui s'appelle Abdullah, le Ummi Mouktoum. Il est venu vers le prophète là et cherchait yani, à ce que lui poser quelques questions ou bien lui il voulait qu'il lui fasse la dawa et comme ça. Et le prophète là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est détourné de lui. Il s'est détourné de lui en se disant dans son cœur, celui-là, j'ai le temps de le voir. C'est un musulman, ensuite j'ai le temps de le rencontrer, etc. Mais le kafir, celui-là que je suis avec lui, c'est une occasion en or pour lui faire la dawa. Donc il s'est détourné de l'aveugle. Allah Ta'ala dit de lui. Il a dit, il s'est renfrogné et s'est détourné. En parlant de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il s'est renfrogné et il s'est détourné. C'est-à-dire de l'aveugle. Ensuite, Allah Ta'ala lui a dit, parce que l'aveugle est venu à lui, il lui a dit, qui te dit? Qui te dit à Muhammad? Peut-être cherche-t-il à se purifier, cet aveugle. Ou bien, il cherche à se rappeler en sorte que le rappel lui soit profitable. Pourquoi tu t'es renfourni et tu t'es détourné de lui? Ensuite, il lui a dit, quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, en parlant du kafir là, auquel tu veux faire la da'wah, il lui a dit, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Non, ce richard, là, ce richissime auquel tu veux faire la da'wah, et auquel à cause de lui tu étais détourné de l'aveugle. Alors que l'aveugle est venu vers toi et il cherche à se purifier. Qu'est-ce qui te prouve, non, ou plutôt, qu'est-ce que ça peut te faire qu'il ne se purifie pas? Non, qu'est-ce que tu vas gagner toi s'il se purifie, s'il ne va pas se purifier? Qu'est-ce que tu perds toi si tu le délaisses et que yani, tu donnes l'importance à l'aveugle? Ensuite, Allah Ta'ala lui dit, au prophète, et quant à celui qui vient avec toi avec empressement, tout en ayant la crainte, c'est-à-dire l'aveugle, tu ne t'en soucies pas. Tu le délaisses et tu vas vers l'autre. Allah Ta'ala lui dit, n'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Non, n'agis plus ainsi. Faut pas faire ainsi. Donc ça, c'est une faute. Si quelqu'un vient vers toi, non, même s'il est aveugle, il est rien dans la société, non, commence par lui. L'autre, le richard, etc., peu t'importe. Peu importe que tu lui fasses de rappel ou pas, qu'il rentre dans le dîn ou pas, peu importe. Non. Encore, où est la preuve qu'il va être guidé? Où est la preuve? Non, il lui dit, ne fais pas cette faute, bi'idhnillahi ta'ala. Al-Muhim, c'était juste pour dire que yani, les messagers peuvent faire des fautes, mais que leurs fautes, alhamdoulilah, sont seulement des petites fautes. Ensuite, il y a deux choses ici que je veux dire, pour terminer, je vais dire la différence. Quelle est la différence entre nous et les prophètes? Si maintenant, on a prouvé qu'eux aussi ont... Naam, eux aussi font des fautes. Mais, eux ne font que les petits péchés. Alors que nous, on fait des petits et des grands. Voilà la première différence. La première différence, naam, nous et les prophètes, on fait des fautes. Mais nous, on fait des petits et des grands péchés. Alors que, quand nous, on fait des péchés, des petits péchés, même, on ne parle pas des grands maintenant. Même nous, quand on fait des petits péchés, il n'y a pas quelqu'un qui peut quoi? Qui peut nous faire le rappel, par exemple. C'est pas tout le temps que les gens nous font des rappels. Donc on peut faire des petits péchés comme ça, une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois. Alors que les prophètes, non, les messagers. Quand ils font un petit péché, Allah Ta'ala, vite, il leur fait quoi la remarque? Attention, vous avez fait le péché. Ou bien directement, il fait descendre le Coran, ou bien par l'intermédiaire d'autres gens qui l'envoient, etc., des sebebs, des causes, pour leur faire remarquer qu'ils ont fait le péché. Donc, les messagers, quand ils font le péché, ils ne font que le petit péché, et quand ils font le petit péché, vite, Allah Ta'ala leur fait yani, la remarque, pour qu'ils ne continuent pas dans le petit péché. Alors que nous, on peut continuer dans le petit péché et le faire 1000 fois. Alors que eux, non, jamais. Ils le font seulement une fois. Ensuite, Allah Ta'ala leur fait la remarque et ils s'arrêtent. Troisième différence, nous, on peut faire le petit péché sans jamais faire la tauba. Alors que, dès qu'ils font un petit péché, et ils remarquent, ou Allah Ta'ala leur fait remarquer, ils s'arrêtent et ils font la tauba. Vous avez lu, à chaque fois, ils demandent pardon à Allah Subhanahu wa ta'ala. Mais le malheureux, c'est quoi? Le malheureux, c'est quitte. Les rawafid, les chiites, disent quoi? Disent que les les messagers ne font pas de péché. Ni ne font le petit péché, qui est encore moins le grand, ni ils oublient. Une fois, j'ai parlé avec un chiite, il m'a dit que les messagers n'oublient pas. Je lui ai dit pourquoi ils n'oublient pas. Il m'a dit parce qu'ils sont infaillibles. J'ai dit pas, il m'a dit si, ils ne peuvent pas oublier. Je lui ai cité le verset de Kef, où Moussa alayhi salam a dit à Al-Khadir, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Fala tu akhidni bimanasit. Le verset que j'ai oublié maintenant. Il lui a dit, La tu akhidni, c'est qu'il a oublié, il ne m'en veut pas pour avoir oublié. Et le verset, Rabbana la tu akhidna in nasina akhtana dans son Baqara. Il s'est étonné, il s'est tué. Il s'est tué ce tonné. Donc, ils ne connaissent rien. Ils savent même qu'il y a ces plaintes où les prophètes demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de leur. Ils ne connaissent rien dans la religion. Et ce qui est beau, c'est quoi? C'est que non seulement ils disent, bien sûr, n'oublie pas, mais ils disent leur a'imma. Leur a'imma, leur ça, sont libres. C'est ça le ce qu'il y a de malheureux. Leur savant, hein, leur savant et leur a'imma, ils disent qu'ils sont infaillibles. Ils sont tels. Regardez ici, Khomeini, par exemple. Il y a plein de petites coupures. C'est dommage. Donc, puisque c'est plein de petites coupures, donc on va arriver. Est-ce qu'il y avait depuis le début du cours? Non. C'est maintenant. Ça vient de commencer. Ça y est. Une seconde. Khomeini dit dans son livre qui s'appelle Le Hukum al-Islamiya, page 91. Il dit les imams, qu'ils peuvent oublier ou alors qu'ils peuvent se tromper. Ils font ça, c'est impossible. ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة المسلمين et qu'ils connaissent tout ce qui a intérêt avec les musulmans, ils le connaissent. Subhanallah al-Azim. Et même, il y a quelqu'un d'eux qui dit quoi? Qui dit que c'est kufr. Il a dit وَمِنْ نَفَعْ عَنْهُمْ الْعِصْمَةِ فِي شِيْرِهِمْ فَقَدْ وَمِنْ جَيْلَهُمْ فَقَدْ كَفَرْ. Dans le livre Aqaïd Imamiyya, 12, page 157. Il y a l'un des shi'as qui dit que quiconque dit que les imams des chiites, les imams, yani, peuvent se tromper et ne sont pas infaillibles, il a tué. A'oudou billah. A'oudou billah. Bon, les chiites n'ont pas dit seulement ça, ils ont choses plus graves. Donc, inshallah ta'ala, on va arriver pour les messagers. Ou la khalouni, je vais ajouter une chose avec laquelle je vais terminer, inshallah ta'ala, comme ça, le prochain cours, je ne vais pas parler des messagers. J'aurais voulu parler, puisqu'on parle des messagers, j'aurais voulu parler des miracles. Des miracles des messagers. Et quels sont les miracles de chaque messager. Mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Non. Peut-être qu'on va laisser ça pour... c'est pas pour une autre fois. Eh non, pour une autre fois, mais pas dans le prochain cours. C'est-à-dire qu'on va faire... on va laisser ça spécifiquement, yani, pour choisir un cours, c'est quoi son miracle, le c'est miracle, et de préférence, ça sera dans, yani, Qasas al-Anbiya, quand on parle spécialement sur les messagers. Mais je voudrais terminer ce cours sur les messagers, en disant que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Mohammed, alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui a donné 6 choses. 6 choses que les autres messagers n'ont pas. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. La première des choses, le prophète m'a dit dans un hadith authentique, Allah Ta'ala m'a, attendez, je cherche le mot, comment on dit, a fait de moi mieux, attendez, comment on dit, m'a, comment on dit, fadlalani, m'a préféré. Allah Ta'ala m'a préféré, prophète, de six choses. La première, il a dit, u'titu jawami' al-kalim. U'titu jawami' al-kalim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre prophète islam dépassait les autres là, et préférait des autres de six choses. La première, qu'est-ce qu'il lui a donné de la terre? Il lui a donné que lorsqu'il parle, lorsque notre messager parle, alayhi salam, Allah Ta'ala yani, lui raccourcit beaucoup, beaucoup de phrases et il peut les résumer en deux ou trois mots. Ou alors, yani, un texte comme ça, beaucoup de choses dans la législation, il peut te les résumer dans une ou deux phrases. Alors que tous les autres messagers, non. Quand ils voulaient parler, il faut qu'ils parlent. Ils parlent pour qu'ils t'expliquent. Ils parlent longtemps. Alors que notre prophète, spécialement lui, il peut te dire seulement une phrase, et cette phrase, subhanallah l'adim, tu peux écrire de cette phrase, tu peux déduire des centaines de faïdes, des milliers peut-être. Et quoi? Et écrire des livres. Écrire des livres. En disant seulement une seule phrase. Alors que les autres messagers, ou alors tous les autres humains, c'est pas comme ça. Quand ils parlent, il faudrait qu'ils parlent assez longtemps pour t'expliquer. Mais notre messager al-Salam avait, alhamdoulilah, cette faveur que, yani, il peut dire beaucoup de choses dans une seule phrase. Non, ça c'est la première, yani, faveur. La deuxième, il a dit, wa nusirtu bil-rab. Nusirtu bil-rab. Allah Ta'ala lui a donné la deuxième faveur qui est quoi? Que yani, Allah Ta'ala lui a donné la victoire. Il lui a donné la victoire en plaçant la peur dans quoi? Dans les cœurs de ses ennemis. En plaçant la peur dans les cœurs de ses ennemis. Dans un hadith authentique, il a dit quoi? Il a dit que Allah Ta'ala a placé la peur dans les cœurs de mes ennemis à une distance d'un mois. Allahu Akbar. Imaginez, en un mois, combien la personne peut marcher sur une monture, par exemple. Il a dit, à une distance d'un mois, par exemple, en un mois, combien je peux marcher, disons, peut-être, à disons 1000 km. Disons 1000 km. Sur quoi? Sur une monture. Ça, c'est un exemple. C'est tout. Le prophète Aslam, quand il va rencontrer son ennemi, quand il arrive, par exemple, il a démarré de Médine et il part. Puis il veut aller, par exemple, à Rome. Le hadith dit que quand il reste, il y a une limite, ou la distance de, par exemple, entre lui et l'ennemi, 1000 km. Mais c'est le char. C'est-à-dire la distance d'un mois. Moi, j'ai dit 1000 km, hein, c'est, je l'ai dit de ma tête. Mais le hadith a dit la distance d'un mois. Que la Ta'ala, que va-t-il faire quand il reste la distance d'un mois pour qu'il arrive chez l'ennemi? Les ennemis, Allah Ta'ala va faire descendre dans leur cœur quoi? La peur. Ils commencent à trembler. Ils commencent à trembler un mois, une distance d'un mois, et avant qu'arrive le prophète et son armée. Ça, c'est la deuxième particularité. Alors que chez les autres messagers, non. Il faudrait qu'il arrive à Allah pour que l'ennemi le voie, peut-être que pour qu'il ait peur de lui, pour que l'ennemi ait peur. Mais le prophète, non. Allah Ta'ala a placé la peur et la crainte dans le cœur de ses ennemis à distance d'un mois. La troisième particularité que Allah Ta'ala a donnée à notre messager, alayhi salam, il a dit, Uhillat lil ghanaim. Autrefois, quand les prophètes, ils prenaient le butin, ce qu'il y avait comme or, ce qu'il y avait, tout ce qu'ils prenaient comme butin, c'était interdit de le toucher. Mais ils le rassemblaient comme ça, au milieu, par exemple, milieu comme ça, il le mettait dans une placette comme ça, ou là une place comme ça, et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'éloignait de lui. Il commençait yani, à le regarder. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait un feu du ciel. Et ce feu brûlait tout le butin. Un grand feu hein, qui descendait du ciel, disons comme un éclair. Allah Ta'ala envoie un éclair et l'éclair donne par exemple le feu. Et le butin brûlait. Ça c'était pour les autres messagers. Il a dit, quant à moi, Allah Ta'ala m'a permis le butin. Il prend le butin, alayhi sallam, et il le partage avec ses compagnons. Et c'est une ni'ma. Yani, tu vas à la guerre sainte, et ou bien tu meurs en martyr, ou bien tu reviens à quoi? Tu reviens avec le butin. Le butin, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est des montures, c'est les enfants des autres, les femmes, etc. Tout ça, ça rentre dans le butin. Ça, c'est une chose qu'il a donnée spécialement à notre prophète Al-Satan. La quatrième chose, la spéciale, c'est que tous les messagers d'avant le prophète Al-Satan, quand arrivait le moment de la salat, hein, ils devaient quoi? Ils devaient chercher de l'eau pour faire des ablutions. Il n'y a pas de taïmoum. Alors que pour notre prophète Al-Satan, mais pour nous aussi, il y a le taïmoum. Quand tu es dans le désert ou dans un endroit où il n'y a pas d'eau, tu ne dis pas, je vais faire la prière ce soir ou demain quand je vais trouver de l'eau. Mais tu vas quoi? Tu vas avec tes mains essuyer le sol ou le parterre et quoi? Et faire la prière. Premièrement, donc, il va donner le taïmoum. Et deuxièmement, il peut faire la prière, le prophète Aslam peut faire la prière dans n'importe quel endroit, là où il est. Alors qu'autrefois, non. Il faut chercher où est, par exemple, le synagogue, ou bien où est l'église, ou bien où est la mosquée, pour faire la prière. Alors que, alhamdoulilah, pour nous, c'est une grande ni'ma. Là où tu es, tu as ta voiture, tu descends ta voiture, tu cherches où est la qibla, tu essuies yani, tes mains et ton visage avec le sable, et tu dis Allahu Akbar, et tu pries. Alors qu'autrefois, non. Il faut chercher l'eau, il n'y a pas d'eau, je ne fais pas la prière. Ensuite, même si j'ai de l'eau, où est le synagogue, où est l'endroit où je fais la prière? Il n'y a pas. Donc demain ou là, dans un mois, je vais prier. Quand j'arrive chez moi, je vais à la place spéciale où on prie. Alors chez nous, alhamdoulilah, tu pries là où c'est l'endroit. Juste, il ne faut pas qu'il y ait de la souillure ou des choses qui se contredisent. Alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma. Donc ça, c'est la quatrième des choses. La cinquième des choses qui est spécifique à notre prophète, c'est quoi? C'est que tous les messagers, les prophètes d'autrefois, étaient envoyés à leur nation. Et Isa, Jésus, envoyé aux enfants d'Israël. Moussa, envoyé aux enfants d'Israël. Mais notre prophète a été envoyé à l'humanité entière. C'est pour cela que si par exemple un chrétien veut rentrer en islam, il faut voir qu'est-ce qu'il atteste lui. Car des fois, le fait qu'ils disent je reconnais que Mohammed est prophète, des fois ça ne suffit pas. Car certains, ce sont des savants qui disent ça, car certains attestent. Il peut attester que Mohammed, c'est un prophète. Mais quoi? Mais le prophète des Arabes, pas notre prophète. Tu dis, oui, Mohammed, je reconnais, c'est un prophète. Moi, je ne suis pas comme les autres qui disent qu'il n'est pas prophète. Non, moi, je reconnais ça, tu as été envoyé pour les Arabes. Je te dis comme ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit? Mohammed, alayhissalam, a été envoyé à toute l'humanité. Même a été envoyé aux animaux et aux djinns. Alors que tous les autres étaient envoyés spécialement à leur communauté, chacun à sa communauté. Donc ça, c'est la cinquième spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sixième, hadith rawahu Muslim, la sixième spécificité, c'est quoi? Il a dit que Allah Ta'ala a terminé la prophétie par moi. Là, tous les autres prophètes qui sont venus, après eux, il y a quelqu'un qui va venir, un autre prophète. Après eux, ou là 10 ans après, ou là 100 ans, ou là 1000 ans, il y a un autre prophète qui va venir pour parachever la prophétie. Alors que Mohammed Aslam, après lui, il n'y a aucun prophète. C'est le dernier. C'est le dernier. Même s'il a dit quoi? Il a dit qu'après moi, il y aura 30 faux prophètes. Et parmi les dans un hadith, il a dit 28, 27, 30. Il a dit parmi ceux-là, il y aura 4 femmes. 4 femmes qui vont venir, qui vont dire on est des prophètes. Il y a déjà une que le monde a connue, qui s'appelle Sajah, qui était mariée avec Moussa Inima, qui lui-même, son mari, a dit je suis prophète. Et il a été tué par Abu Bakr Siddiq. Non, tué par Abu Bakr Siddiq. Pas Abu Bakr, c'est-à-dire l'armée de Abu Bakr, ça, l'oncle du prophète, c'est celui-là qui a tué Mousseïlima al-Kadhab, Mousseïlima qui a dit je suis prophète au Yémen. Et sa femme c'était qui? Sajah, qui elle-même avait dit je suis prophète. Mais alhamdoulilah, 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 avant de mourir, elle a fait la tauba et a reconnu qu'elle était dans la faute et elle était devenue une bonne musulmane et elle est morte sur l'islam. Alhamdoulilah. Al-Muhim. De nos jours, jusqu'à présent, il y a une secte qui s'appelle Ahmadiyya. Ahmadiyya, et j'ai dit la fois passée, ils ont même une chaîne à la télé, la chaîne des Ahmadis. Et des fois, dans le parc, quand tu rentres comme ça, tu vois, il y a des pseudos qui s'appellent Ahmadi. Ahmadi 1, Ahmadi 2, Ahmadi 3, comme ça, avec des numéros. Il suit qui? Il suit quelqu'un qui s'appelle Ahmed Roulan Mirza. Celui-là, A'oudou Billah, qui a beaucoup, beaucoup d'adeptes en Allemagne, en Inde et surtout aux États-Unis. Non, il te dit je suis Ahmadi. Ça veut dire Ahmadi quoi? Toi, tu sais pas, tu vas croire que c'est Ahmed. Ahmed, c'est le prophète Islam. Il s'appelait Mohammed, il s'appelle aussi Ahmed. Donc, il va te tromper. Il dit je suis Ahmadi, tu vas croire que il suit le prophète Islam. Alors que il suit quelqu'un qui s'appelle Ahmed Roulam Mirza. A'udoubillah, qui est mort, comme je vous ai dit, mort dans les toilettes. Mort dans les toilettes. Car Allah Ta'ala, comme vous savez, la sunna de ces messagers, qu'ils doivent être, enterrés là où ils meurent. Et quand il est mort dans les toilettes, ça a causé un grand problème à ses adeptes. Ils ont dit, comment qu'on fait maintenant? Si vraiment il est prophète comme il dit, donc on doit, quoi? On doit l'enterrer dans les toilettes. Imaginez un prophète enterré dans les toilettes. Et si on ne l'enterre pas là où il est mort dans les toilettes, donc il n'est pas prophète. Comment qu'on va faire? Et il y a une guerre, comme ça, une polémique qui a eu entre eux. Même certains ont dit, donc c'est pas vrai celui-là. Il est mort dans les toilettes. Allah Ta'ala, s'il était prophète celui-là, il l'aurait aimé. C'est la meilleure créature. Comment il lui envoie mal qu'il meurt dans les toilettes? Il aurait pu le laisser sortir et lui prendre son âme. Et, alhamdoulilah, le kafir, il est mort dans les toilettes. Al-Muhim. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, dans 10 minutes, un quart d'heure pour les questions-réponses. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre PV, min fadlikum, cher. Donc je vous transmets les trois premières questions, cher. Donc la première, étant la question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Est-il authentique que les monstres des femmes proviennent d'une punition qu'Allah Ta'ala aurait donnée à Hawa suite à radiyallahu anha? Et juste une précision, cher. Quand Allah Ta'ala fut paraître leur nudité, cela veut-il dire qu'ils étaient déjà nus et qu'ils ne s'en rendaient pas compte, ou bien qu'ils étaient habillés et nus par la suite? Jazakumullahu khayran. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum cher. Peut-on acheter les livres des histoires des prophètes dessinés pour enfants? Donc là, je pense, cher, qu'elle veut dire avec les visages, etc. Question suivante, question d'une sœur également. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde le Firdaou, cher. Les invocations d'ouverture de la salat après le takbir peuvent-elles se faire en français ainsi que celles faites avant le teslim? Jazakumullahu khairan. Fadal, cher.
Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. On va commencer par la troisième question, inchallah ta'ala. Salam alaikum. Les invocations d'ouverture de la salat après le takbir peuvent-elles se faire en français ainsi que celles faites avant le taslim? Bon. Pour les invocations d'ouverture de la salat après le takbir. Les invocations d'ouverture de la salat après le takbir. Non, je dis, pour les invocations d'ouverture de la salat, vous savez que ce n'est pas une obligation. Attendez, je ne sais pas si je suis... Alhamdoulilah. Donc, c'est seulement une sunna. C'est seulement aussi... Quelqu'un ne les fait pas, le péché. Reste maintenant si on peut les faire en français ou pas. Moi, je connais une fatwa de Cheikh Ibn Othaymin rahimahullah, où il a dit, où il a dit, car vous savez que quand quelqu'un prie, il faut qu'il prie avec le fatiha en arabe. Vous savez ça. Mais s'il ne prie pas, s'il ne connaît pas le fatiha en arabe, ça ne lui est pas permis qu'il lise le fatiha en français. Ça dit qu'il lise la traduction. Au lieu de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, il dit louange à Allah, Seigneur des mondes. Il ne dit pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et ça, c'est facile de le dire. Ce n'est pas difficile pour un converti de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Vous savez ça. Al-Mouhim. Mais Cheikh Ibn Othaymin Rahimahullah a dit Muslim, est-ce que vous m'entendez? Muslim, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Cheikh Ibn Othaymin rahimahullah a dit pour les doigts, il a dit pour les doigts, il a dit que chacun fait d'après, comment qu'il a dit ça? Il a dit d'après sa langue. Non, il a dit d'après sa langue, il a dit car ce qu'il faut faire en arabe, il a dit c'est le Coran. Il a dit, Qibl Koumel, fais-toi une seconde. Une seconde, je ramène ce qu'a dit ici Cheikh Ibn Othaymin, pour être sûr, ce qu'il a dit, est-ce que c'est, il parlait des doua, ou bien il parlait des tasbih, une seconde. Salam. Donc, pour la fête de Cheikh Ibn Othaymin, rahimahullah, il dit, dans son livre, Fath dil Jalal ou l'Ikram, Sharh Bulugh al-Maram. Numéro 2. Numéro 2, page, donc Sharh Bulugh al-Maram, numéro 2, page 22. Numéro 2, page 22. Écoutez ce qu'il a dit. Alladhi la yastati' qira'at al-Qur'an fi salat. Celui qui ne peut, en parenthèse Fatiha, celui qui ne peut pas lire la Fatiha dans la salat. Falyantaqil ila al-badl. Alors qu'il lise, c'est-à-dire ici, qu'il lise ce qui lui équivaut, ou là qu'il lise à sa place, yani la chose qu'on doit lire à sa place, le badl. C'est quoi le badl? Il a dit wa huwa at-tasbih, subhanallah, alhamdulillah, ou tahlil, la ilaha illallah, wallahu akbar. Il a dit bi lughati al-mar'i li'annahu dhikrun fa yajuz bi ghayri al-arabiyya. Il a dit quand il dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, il a dit avec la langue de la personne, c'est-à-dire si la personne n'est pas arabe ou ne connaît pas l'arabe, elle peut dire en français. C'est-à-dire elle dit Allahu Akbar, ensuite elle dit Subhanallah, louange, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, la ilaha illallah, il a divisé, ou takbir, Allahu Akbar. Il a dit car, il a dit ça c'est du dhikr, c'est pas du Coran. Normalement, il dit le Coran, mais le Coran, c'est seulement en arabe. Mais puisqu'il n'y a pas le Coran ici, il dit, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Akbar. Il a dit, c'est permis de le dire, donc, contrairement à ce que j'ai dit moi tout à l'heure, il a dit, c'est permis de le dire avec la langue de la personne. Si c'est chinois, il dit en chinois. Si c'est allemand, il dit en allemand. C'est les quatre choses-là. Mais je dis, à condition qu'il ne sache pas dire en arabe. C'est-à-dire, s'il peut dire en arabe, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Akbar. C'est ce qu'il peut dire, c'est ce qu'il doit dire. Mais s'il ne sait pas l'arabe, qu'on n'est rien et c'est difficile pour lui, alors qu'ils disent subhanallah, alhamdoulilah, la ilaha illallah, akbar, mais dans sa langue. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il a donné la aïd, la cause, il a dit pourquoi, il a dit c'est du dhikr, fayajouz bi ghayr al-arabiyya. Il a dit, c'est possible de le dire, yani, pas en arabe. Donc si on va se baser sur sa fatwa, donc ici les doigts, c'est aussi du dhikr. Naam. Donc, Wallahu ta'ala alam, c'est possible que ça ne soit pas en arabe si on est dans le besoin et que, yani, on a mis dans le cœur que, inshallah ta'ala, on est en train d'apprendre l'arabe et on fait des efforts, etc. Mais le temps d'apprendre, on peut faire. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Voyez. On a lire donc la troisième question. On va lire maintenant, inshallah ta'ala, la deuxième, ensuite la première. La deuxième question, et comme ça, donc là, les invocations, chers enfants. Peut-on acheter les livres des histoires des prophètes dessinés pour enfants? Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a comme dessin dans ces livres. Si dans ces livres, il y a des prophètes qui sont dessinés, dans ce cas, c'est haram. Si dans ces livres, il y a des prophètes qui sont dessinés, dans ce cas, c'est haram. Non. Si maintenant, c'est autre chose. Ce ne sont pas les prophètes, c'est plus ou moins pour les enfants, plus ou moins. Ce qui dit, il y en a une seule parole, c'est interdit de donner la forme d'un prophète. Non. Reste une chose, et encore c'est mieux si on n'achète pas. Même si ce n'est pas les prophètes, c'est mieux si on n'achète pas pour éviter la divergence. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Pour la première question, est-il authentique que les monstres des femmes proviennent d'une punition que Allah ta'ala aurait donnée à Hawa suite à sa désobéissance? Radiallahu ta'ala anha. Naam, il y a un hadith authentique en ce sens. Il y a un hadith authentique en ce sens que vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé Aïcha en train de pleurer dans la Umrah parce qu'elle a eu ses monstres. Et il lui a demandé de s'apaiser. En lui disant quoi? En lui disant que c'est une chose que Allah Ta'ala a écrite sur les filles de Adam. Il lui a dit, ça c'est une chose que Allah Ta'ala a écrite, yani sur les filles de Adam. Elle parle d'une punition que Allah Ta'ala aurait donnée à Hawa. Non. Le hadith n'a pas dit que c'était une punition que Allah Ta'ala a donnée à Hawa. Mais le hadith a dit que c'est une chose qui arrive à toutes les filles de Hawa. Toutes les filles de Adam. Toutes les filles de Adam. Adam, ça veut dire Hawa. Mais, il y a un autre hadith authentique où il est dit que il y avait trois femmes. Là, il y avait trois femmes de Ben Israël. Il y avait deux qui étaient assez grandes et il y avait une qui était petite. Et elle a trafiqué. Comme ça, des trucs en bois, elle l'a mis dans ses pieds, elle est montée dessus, bien sûr, quand elle a comme ça une abeille, là, on ne voit pas ses pieds, donc elle paraissait grande entre les deux, et elle a mis du parfum, et quand elle est passée devant les hommes, ils ont été attirés par elle, etc. Et Allah Ta'ala, le hadith a dit que Allah Ta'ala, de ce jour-là, a puni cette femme, et a puni les femmes à travers cette aile. Il a dit, il leur a donné les monstres. Donc, la punition dont parle celle qui a posé la question, elle a un peu mélangé, mais la punition parle d'une autre femme, de trois femmes de Ben Israël. Et une d'elles qui a trafiqué, et que Allah Ta'ala a puni les femmes en leur donnant quoi? En leur donnant des monstres. Maintenant, le problème, où est le problème? Le problème, si on va dire que Allah Ta'ala a donné des monstres comme punition, à partir de ces trois femmes-là. Donc, on va dire qu'il n'y avait pas les monstrues avant ces trois femmes-là. La preuve, il les a punis, ces trois femmes, en donnant les monstrues aux femmes. Donc, si on va dire qu'il n'y avait pas les monstrues auparavant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça se contredit avec le hadith de Aïcha que je viens de citer. Que quand elle a pleuré, pour l'apaiser, le prophète lui a dit, ne pleure pas, c'est une chose que Allah Ta'ala a donnée à toutes les filles de Adam. Toutes les filles de Adam. Et avant ces trois femmes, avant ces trois femmes dont je suis en train de parler, que Allah Ta'ala a puni, il y avait beaucoup de filles de Adam. Donc elles avaient les monstres, en montant jusqu'à Adam. Donc comment on fait maintenant pour joindre ces deux hadiths? Le premier des trois femmes dit que les monstres ont commencé par ces trois femmes, comme punition. Et l'autre hadith dit que toutes les femmes de Adam avaient les monstres. La meilleure façon, Allah Ta'ala alam, de joindre entre les deux, c'est de dire. On va dire, toutes les femmes de tout temps, depuis Adam alayhi salam, avaient les monstres. Mais les monstres n'étaient pas à ce point-là. C'était juste un peu de sang. Juste un peu de sang. Et que, à partir des trois femmes de Ben Israël et celles qui a trafiqué, etc., et que Allah Ta'ala a puni, il a donné donc, à partir de ce jour, à toutes les femmes, il y en a beaucoup de moules à flot. Et des fois, c'est même les métrorages. Comme ça, inshallah ta'ala, on groupe les deux, entre les deux hadiths. Donc, le hadith de Aïcha qui dit que toutes les femmes avaient des monstres. On dit, c'est vrai, toutes les femmes depuis Adam avaient des monstres. Mais ils n'étaient pas aussi forts que lorsqu'elles ont fait la faute des trois femmes et que Allah Ta'ala les a punies, ou Allah a puni celle du milieu qui a trafiqué et a donné, il y en a une, je sais pas comment on dit ça, une force dans les monstres. Et c'est comme c'est maintenant chez les femmes. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Tfadhal pour d'autres questions.
Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites, qu'il vous accorde son paradis et vous écarte de son enfer, ainsi que toute votre famille. Quand vous avez dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour les animaux, c'est dans quel sens? Et les cours ont-ils changé d'horaire? Désolé pour les deux questions, mais elles sont brèves. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve. Voici ma situation. Je me suis marié avec un homme étranger, sans papier. J'ai eu deux enfants avec lui. En étant marié, il a continué à vivre dans son pays. Il n'a jamais assumé financièrement, éducation, etc. Il n'a jamais reconnu ses enfants à l'état civil. Lorsque nous nous sommes mariés civilement, il est venu en France. Mais au bout de 2 mois, il est retourné dans son pays par rapport à une dispute qu'il y a eu car il ne voulait pas travailler. Il ne calculait pas ses enfants. Il ne m'a plus donné de nouvelles, c'est moi qui essayais de maintenir le lien par rapport aux enfants. 8 mois après, il est revenu et s'est excusé en disant qu'il allait travailler. Et subhanallah, il a recommencé. Ma question chère, cela fait 4 mois que je n'ai plus du tout de nouvelles de lui. Père, j'aimerais divorcer, mais comment pourrais-je faire s'il ne réapparaît plus? Est-ce que je suis divorcé automatiquement? Barakallahu fikoum, cher, pour votre aide. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum, cher, qu'Allah vous préserve. Quand on oublie de dire Bismillah avant de manger, doit-on dire Bismillah fil awel ou al-akhir? Suite à ce hadith rendu faible par Shirel al-Bani, rahimahullah. D'après Umayya ibn Marchi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis alors qu'un homme mangeait. Cet homme ne prononça pas le nom d'Allah jusqu'à la fin de son repas. Pour la dernière bouchée, il dit « Au nom d'Allah au début et à la fin ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit et dit « Le djinn n'a cessé de partager son repas jusqu'à ce qu'il prononce le nom d'Allah. Et lorsqu'il prononça le nom d'Allah, il vomit tout ce qu'il avait dans le ventre », rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Donc la chaîne de transmission est faible. Donc que doit-on dire lorsqu'on oublie de dire Bismillah, Barakallahu Fekoum, Tfadal Cheikh.
Tayeb, salam wa comment est-ce que vous m'entendez? Elle dit, quand vous dites que le prophète d'Islam a été envoyé pour les animaux, c'est dans quel sens? Est-ce que les cours ont changé d'horaire? Pour les cours, non, j'ai dit que à partir de maintenant, c'est 20h30. Et ça va descendre. 20h30 en Algérie, 21h30 chez vous. Ça va descendre jusqu'à ce que ça devienne 20h et ça devienne 19h, bidnillahi, Voilà. Surtout que chez vous, yani, on va, yani, on vous enlever une heure. Tradla, il me demande le micro, tradla.
Non, mais justement, cher, c'était pour le passage à l'heure d'hiver. Ce sera dimanche prochain, Inch'Allah. Donc, pas demain, mais celui, dimanche dans une semaine. On passera donc à la même heure qu'en Algérie. Fin de cher.
Donc, alhamdoulilah, ce sera une ni'ma. Ensuite, non, dans quel sens le prophète Aslam a été envoyé aux animaux aussi? Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'il avait envoyé le prophète Aslam l'alamin, c'est-à-dire à tous les mondes. Tous les mondes, le monde des djinns, des animaux, des... Dans quel sens il a été envoyé aux animaux? C'est pas pour le faire la da'wah. Mais, yani, avec de la rahma, même pour les animaux. Quand les hadiths viennent, ils te disent, c'est interdit, par exemple, d'égorger un animal devant un autre. Il faut l'éloigner de lui. C'est interdit de lui montrer le couteau. Il faut attendre la dernière minute. C'est interdit de lui donner du poids. Un âne, là, on ne va pas mettre sur lui plus qu'il n'en peut. C'est interdit de ne pas lui donner à manger. Une femme est rentrée au paradis à cause d'un chat. Il faut non en faire. Une femme est rentrée au paradis à cause d'un chien. Et comme ça. Donc, regardez, pour les animaux, le prophète Aslam, c'est vraiment une rahma. C'est vraiment une rahma. C'est en ce sens, inshallah ta'ala, que j'ai dit ça. Taïb. Pour la deuxième question. Pour la deuxième question. Je vous ai dit que quand quelqu'un se marie pour les papiers, en principe, yani, il ne faut pas se marier avec lui. Sauf si quoi? Sauf s'il veut se marier avec pour les papiers, mais que son but, ce n'est pas les papiers. Son but, c'est vraiment le mariage. Mais en même temps, il fait les papiers, il dit ma'alesh. Si vraiment, yani, il est sincère dans l'intention. Reste à savoir maintenant, c'est quoi sa vraie intention. Sinon, quand quelqu'un se marie pour les papiers, dès qu'il a les papiers, déjà, même son mariage n'est pas valide. Son mariage, s'il se marie pour les papiers, les savants disent ce n'est pas valide. Pourquoi? Car le mariage, c'est avec l'intention de se marier avec une femme à vie, pour avoir des enfants, pour avoir yani, des musulmans, pour que le prophète Aslam, yani, Yom al-Qiyamah, yani, se vante, comme vous savez dans le hadith sahih. Mais celui qui s'est marié pour les papiers, il n'y a pas ça dans sa tête. Donc, ce n'est pas un mariage charnel. Celui maintenant qui revient et qui ensuite 4 mois ne donne pas de ses nouvelles. Pour moi, quelqu'un, un mari, s'il ne donne pas de ses nouvelles 2 ou 3 jours, ça veut dire que c'est un fou celui-là. Ça veut dire que c'est grave. Il est dans un hôpital grave, il est malade, ou il a fait un accident grave, ou bien il est chez la police, ou bien, mais c'est pas normal qu'il soit par exemple chez lui et ne donne pas de ses nouvelles 2 ou 3 jours. Ça, c'est vraiment de. C'est inconcevable, c'est inconcevable. Maintenant, si on va dire 4 mois qu'il ne donne pas de ses nouvelles, je ne vois pas là c'est quel mariage ça. Je ne vois pas ce qu'est le mariage. Et moi, je dis, la femme, la soeur qui pose cette question, je lui dis, tu n'es pas divorcé. Le fait qu'il reste 2 ou 3 ans sans qu'il revienne et ne donne de nouvelles, tu n'es pas divorcé. Jusqu'à ce qu'il divorce ou que tu fasses le relin qu'il accepte. Ou que le tribunal musulman te divorce. Car si tu vas dans un tribunal musulman et que tu lui racontes et qu'il dit que celui-là, ça fait tant de temps qu'il n'a pas donné de nouvelles, le juge, chez Allah, tu es divorcé. Car Allah Ta'ala a donné cette faveur et cette autorité au juge musulman. Maintenant, quand vous êtes là-bas où il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de tribunal musulman, c'est vraiment donc difficile pour vous. Pour trouver la solution. Il faut faire comme dit Cheikh Ben Othaymine, il faut voir s'il y a par exemple quelqu'un qui s'occupe des musulmans. Normalement, dans chaque pays musulman, il y a quelqu'un qui est yani, reconnu, yani, qui peut être à la place du juge, qui est reconnu là-bas comme quoi c'est lui qui, yani, comment on dit ça, c'est lui qui représente les musulmans. Quand ils ont des problèmes, sérieusement, ils vont dans ce centre, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, des musulmans. Et à la barre, celui qui préside. Celui-là, il peut avoir la place du juge si on lui raconte et il divorce, etc. Comme ça, ils ont dit dans un pays de kofar. Mais un kafir, jamais il pourra faire. Jamais tu peux aller à la mairie ou au tribunal des kofar ou là, il te dit tu es divorcé alors que ton mari, t'as pas divorcé. Donc, je dis à cette sœur, résumé, il faut voir comment qu'elle fait. Il faut bien contacter. Il y a aller dans un pays musulman là, pour raconter à un juge, etc. Ou bien contacter les grands savants. Il faut écrire une lettre à quelqu'un qui va au Hajj, par exemple. Il lui donne une lettre pour qu'il la lise à un grand savant. Il lui donne la réponse. Il lui dit, elle est divorcée. Allah Ta'ala. Donc, il faut qu'elle fasse des efforts pour contacter son mari, pour qu'elle lui dise, il faut voir qu'est-ce qu'on fait, ou là on arrête, ou là je te rends la dot, ou là. Non. Puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala l'aider. Puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala l'aider. Il y avait une autre question ici. Mouslim, tu es là? Attendez, cherche l'autre question. Ah, Naam. Salam alaykoum, il dit. Quand on oublie de dire Bismillah avant de manger, doit-on dire Bismillah fi wali wa khiré? Doit-on dire Bismillah wa khiré suite à ce hadith rendu fait par Cheikh l'Albani? Ce hadith, je dis, n'est pas faible. Ce hadith de dire Bismillah awali wa akhiri n'est pas faible. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Jami' et il a trois versions. On peut dire trois choses. Bismillah awalahu wa akhirahu. Ou bien Bismillah fi awalihi wa akhiri. Ou bien Bismillah ala awalihi wa akhiri. Ces trois versions, je vous garantis Bismillah ta'ala qu'elles ont été authentifiées par Shah, en prenant juste un temps pour vous chercher le hadith. Je dis que les trois sont authentiques, ou du moins, la moindre des choses sont bonnes, hadith Hassan, la moindre des choses. Bismillah awala wa akhira, bismillah fi awali wa akhiri, bismillah ala awali wa akhiri. Quant au dernier hadith que tu as cité, que le diable vomit, etc., ce hadith est faible. Ce hadith, et comme tu as dit, c'est un hadith faible. بإذن الله تعالى اتفضل والله سبحانه وتعالى اتفضل بقضاء كيستيون
نعم شيري كريفي موا سور البي في ان شاء الله دونك جو في بارفونير لي 3 بروشين كيستيون كيستيون دون سور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كيستيون كونسان لي انتيري بانكير. Je voudrais vous demander à qui pouvons-nous les donner si on ne veut pas les laisser à la banque. Une fois, vous nous aviez dit qu'on pouvait les donner à un membre de la famille s'ils sont dans le besoin, comme la mère ou la sœur, etc. Ma question est la suivante. Si la personne vit chez sa mère, qui a peu de moyens, peut-elle lui donner, sachant qu'elle vit chez sa mère, donc mangera de cet argent, ou cela lui est interdit? Et il faut le donner à une autre personne. Barakallahu fikoum, et qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Question suivante. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous donne les firdaous. Je voulais savoir quelles sont les choses interdites dans la ruqya. J'aimerais que vous citiez tout ce que vous savez, cher, pour bien avertir les frères et sœurs, car on a déjà vu beaucoup de catastrophes ici dans les ruqya faites en France. Jazakumullah khairan. Question suivante. Salam alaikum yashir. Ma question concerne ce qui est autorisé pour chasser et pêcher. Pour la pêche, est-il permis d'utiliser un leurre, un faux poisson, pour attirer les poissons? Ceci ne rentre pas dans le fait de tromper les animaux. Barakallahu fikoum, yashir khana, qu'Allah vous récompense et vous préserve ainsi que tous les croyants. Tfadal shir.
Assalamu alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'entends Muslim. Avant cela, c'est dommage que beaucoup de questions. Mais allez, juste pour une remarque. C'est dommage que beaucoup de questions n'ont pas rapport avec le cours. Hein, le cours qui parlait des messagers, ça avait même rapport avec la Aqida, etc. C'est dommage que beaucoup de questions ne sont pas dans le. N'ont pas rapport au cours. Ensuite, nous sommes dans les 10 jours de Dhul-Hijja, et je ne vous ai rien dit des 10 jours d'Il-Hijja, alors que j'ai su aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas des choses très. Comment dirais-je? Des choses qui sont très connues. Par exemple, une personne m'a contacté pour me dire qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas, par exemple, que celui qui va égorger un mouton, que pendant ces 10 jours-là, il n'a pas le droit de se couper les ongles, ni de s'enlever les cheveux, ni de se raser. Dans n'importe quel endroit, il ne touche pas ni à ses poils, ni à ses cheveux. La personne ne savait pas, par exemple. Donc ça m'a un peu étonné. Payé. Donc, je dis vite que pendant ces 10 jours, que si quelqu'un va égorger, il n'a pas le droit de toucher à son corps, à ces choses-là, ses ongles, ses cheveux, et se raser ce qu'il a sous les aisselles ou les parties intimes. Il ne peut pas. Jusqu'à ce que passent les 10 jours. Mais, c'est très important, qui ne peut pas, qui n'a pas le droit? Ce n'est pas celui qui va égorger. Et c'est celui qui a acheté le mouton. Parce que des fois, par exemple, c'est mon père qui a acheté le mouton avec son argent. Et c'est moi qui vais égorger, je suis son fils. Qui ne va pas toucher ses ongles? C'est moi ou c'est mon père? C'est mon père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a acheté le mouton, c'est son mouton, c'est pas mon mouton. Moi, je suis un égorgeur, c'est tout. Il m'a délégué pour égorger. Comme il aurait pu déléguer mon voisin à la dernière minute. La dernière minute, il frappe à la porte, il l'appelle, il lui dit « Viens m'égorger le mouton ». Donc, il n'a rien à voir, mon voisin, avec les ongles et ses cheveux. Là. Mais c'est la personne elle-même, même si c'est une femme. Des fois, c'est une épouse, par exemple, c'est elle qui achète le mouton avec son argent. Et elle l'envoie à l'étranger, ou là, son mari va l'égorger, ou là, c'est elle qui n'a pas le droit de toucher à son corps, et non pas le mari. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi? Et que pendant ces 10 jours, c'est bien de faire beaucoup de bien et de s'éloigner du mal, et que c'est bien de jeûner aussi, et de faire le takbir. Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah, Allah akbar, Allah akbar, wa lillahi alhamd. Ou bien Allah akbar, Allah akbar, c'est tout. Du premier jour de Dhul-Hijja jusqu'au dernier jour de l'Aïd. Du premier jour de Dhul-Hijja jusqu'au dernier jour de l'Aïd. C'est pour ça que je n'ai pas parlé, j'ai dit que c'est sûr que dans mon site, il doit y avoir ça. C'est comme vous avez remarqué, cette année, c'était le Ramadan. J'ai fait aucun cours sur le Ramadan. Pourquoi? Le Ramadan, c'est toujours le même. Donc, je fais une fois le cours sur le Ramadan avec les détails, ensuite il est sur le site. Chaque année, on écoute. C'est la même chose, il n'y a rien qui va changer. Vous avez compris, s'il y a un hadith ou là qui va changer, peut-être il était fort et devenu faible. Et je croyais qu'il était faible, il est devenu fort, c'est tout, je fais la remarque. Mais sinon, c'est la même chose, c'est pour ça que j'en parle pas chaque année, mais c'est bien comme ça de faire un petit rappel, Inch'Allah Ta'ala. Al-Muhim. Pour la première question. Quand quelqu'un a de l'argent dans la banque, la première des choses qu'il devrait faire, Inch'Allah Ta'ala, c'est de faire sortir son argent et de faire la tauba. Je ne parle pas des intérêts. Je parle de l'argent qu'il a, le capital. La première des choses, quand il apprend que c'est haram, que c'est riba, que c'est usure, que c'est grand péché, il va ressortir son argent et faire la tauba. La première des choses. Des fois, il se trouve dans l'obligation de mettre son argent là-bas. C'est quand? C'est comme dit Cheikh Ibn Baz al-Mushir Ibn al-Uthaymeen, il dit, quand c'est une somme importante, 100 millions, 200 millions, imaginez, j'ai 100 millions, je vais les laisser à la maison, c'est pas possible. Je sors, on me les prend. J'ai peur de voir la banque, je cherche s'il n'y a pas une banque usuaire. S'il n'y en a pas, il n'y a que la banque de riba. Cheikh Ibn Baz dit, c'est permis. Pourquoi? Il n'y a pas d'autre moyen. Donc je ne les ai pas déposés dans cette banque à cause que j'aime l'usure. Mais parce qu'il n'y a pas de solution. Mais maintenant, les gens, non. Ce sont eux qui cherchent la banque où il y a l'usure pour gagner de l'argent. Ils disent, moi, je pose 1 million, alhamdoulilah, et dans une année, j'ai 5 millions, qui est mieux que moi? Subhanallah. Al-Muhim, si une personne a son argent dans la banque où il y a l'usure, elle doit les retirer, sauf si elle est dans la daroura que j'ai citée tout à l'heure. Sinon, elle doit les retirer, inshallah ta'ala, et faire tawba. Même si on a le choix sur le type de compte, le même courant. J'ai pas compris que ça veut dire. Ensuite, prends le micro et explique. Bon. Al-Muhim, autre chose. Quant à maintenant, on a des intérêts. Maintenant, il y a dans mon compte des intérêts. Il y a une divergence aussi entre les savants. Est-ce qu'on prend les intérêts ou on ne les prend pas? Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah est de l'avis qu'on ne prend pas. Il a cité sept délits. Qu'on ne prend pas l'argent des intérêts, on les laisse pour eux. Quelqu'un lui a dit peut-être qu'ils vont les prendre, ils vont construire. Il a dit premièrement, ce n'est pas ton argent. Il a dit, l'intérêt c'est haram, c'est pas ton argent. Donc, puisque c'est pas ton argent, tu cherches pas à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas quoi, ne va pas te châtier pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Il a cité sept délits. Les autres, deuxième avis, qui ont dit on peut les prendre, ils ont dit, on les donne à une personne, pour ceux qui prennent du deuxième avis, qui dit au lieu que ce soit eux qui les prennent, tu préfères les donner à quelqu'un qui est dans la nécessité ou là, puisque c'est pas haram pour lui. Donc, il doit les donner à une personne qui est dans la nécessité. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire, si quelqu'un avait de l'argent dans une banque d'intérêt, mais ne savait pas que c'était haram. Il y en a qui sont comme ça. Par exemple, un reconverti, il ne sait pas que c'est haram. Ensuite, il a su que c'est haram. Quand il va retirer son argent avec les intérêts, c'est halal pour lui. Pourquoi? Parce que quand il avait déposé son argent, il ne savait pas que c'était haram. Et quand il a su que c'était haram, il a retiré son argent, alhamdoulilah, il prend tout ce qu'il y a. Comme on dit dans le Coran, wa in tuktum falakum ru'usu amwalikum. Falakum ru'usu amwalikum. Dans ce verset, il a dit que vous avez le capital. Vous n'avez pas en haut, il a dit. Attendez, cherche le verset, il a dit. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Il a dit, regardez, un verset où il a dit, si jamais tu fais la tauba, tu as le capital, donc tu n'as pas les intérêts. Et un verset plus haut, il a dit, si jamais, il a dit, tu as tout. فَلَكُمْ مَا سَلَفَ. Tout ce qu'il y a comme argent, tu le prends. Les savants, pour joindre entre les deux versets, on dit, tu as le capital dans le cas où quoi? Dans le cas où tu n'as pas encore pris l'intérêt. J'ai pas encore pris l'intérêt, j'ai fait tauba, etc. Il a dit, je prends seulement, yani, ce que j'avais déposé comme capital. Mais, maintenant, si j'ai pris déjà l'argent, il est à la maison, ensuite j'ai appris que c'est haram. Donc, dans ce cas, je prends tout. Tout m'appartient. Donc, je dis à cette personne qui vient de poser la question, si elle est d'avis qu'elle prend l'argent et elle le donne aux gens, elle ne doit pas en profiter, elle. Non, elle doit le donner à d'autres. Maintenant, elle dit si elle le donne à sa mère ou à sa soeur ou là, elle peut les donner, leur donner, parce que pour eux, c'est halal. Pour eux, c'est halal. Ils n'ont fait aucune faute. C'est la personne qui a mis cet argent dans la banque qui a la faute, pas les autres. Parce que c'est le haram qu'on appelle l'ikesbihi, ou l'isalidati. Donc elle peut la donner à sa mère, à qui elle veut, et c'est pas la peine de leur dire que ça vient de des intérêts. Tayyib, autre chose, inshallah. Pour la ruqya, quelles sont les choses interdites dans la ruqya? Et pour dire quelles sont les choses interdites, je pense que c'est un peu difficile dans le sens où il faut savoir, yani, quelles sont toutes les choses, yani, méditer. Maintenant, je ne me rappelle pas. Les choses interdites, c'est de faire le shirk et de faire le haram en général. Entre autres, par exemple, d'être seul avec une femme. Ou bien, quand il va faire la prière à une femme, il va la toucher. Il va mettre sa main sur sa tête ou sur sa poitrine. Ou là. Tout ça, c'est interdit. Il ne doit pas la toucher. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore d'interdit? Je ne me rappelle pas maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'interdit? Il faudrait que la question soit le contraire. Est-ce que cette chose est interdite? Est-ce que telle chose est interdite? Comme ça, je peux me rappeler. Maintenant, je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui peut être interdit dans la Roya? Non, de lire, par exemple, des choses que les gens ne comprennent pas. De lire des choses qui ne sont pas Coran, qui ne sont pas Hadith, qui ne sont pas des doigts. De dire des choses que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Ça, c'est interdit aussi. C'est interdit aussi, maintenant je me rappelle aussi, c'est interdit aussi de faire de ça un métier. Très important. Alors, on ne fait pas d'elle un métier. Les Sahaba ne faisaient pas ça, que dire du prophète, alayhi sallam. Non. Mais on fait ça par circonstance. Il y a quelqu'un qui vient me voir là, je lui fais rien. Ou bien, par exemple, je fais par exemple une fois par semaine, si quelqu'un a des problèmes, ou là, je l'aide, je lui fais rien. Mais en faire un métier pour faire rentrer de l'argent, spécialement par la ria, ça rentre dans la bida. Ça rentre dans la bida. Même si quoi? Même si c'est permis de prendre de l'argent pour la ria. Mais pas comme travail. C'est à cause, j'ai fait des efforts, etc. Je lui ai demandé. Et encore, Cheikh Rabih Hafidhahoullah, il a dit que si quelqu'un veut prendre de l'argent pour la ria, car ceux qui prennent de l'argent pour la ria, c'est comme ils disent parce que bon, un sahabi qui s'appelle comment qu'il s'appelle, faut pas si j'ai cité son nom, Abu Saïd al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, a fait ruqya à quelqu'un et lui a fait comme condition, lui a dit tu donnes 30 moutons. 30 moutons, sinon je fais pas ruqya. Et on lui a donné 30 moutons, il a fait ruqya ça. Donc ceux qui disent qu'on prend de l'argent à cause de la ruqya, ils citent ce hadith. Ils disent voilà. Et le prophète Hassan a été mis au courant et il a dit même donnez-moi yani, moi aussi de ma part. Un mohim. Cheikh Rabia, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, c'est pas un délil. Ou alors, il a dit, si tu veux te baser sur ce délil, il faut que tu sois comme Abu Saïd Khudri. C'est-à-dire que tu garantisses quoi? Que tu garantisses la guérison. Car Abu Saïd, quand il a demandé 30 moutons, ensuite, l'autre a été guéri sur le champ. A été guéri sur le champ. Donc, toi, tu prends de l'argent après la guérison. Pas comme condition comme ça, et il guérit pas. Allah subhanahu wa ta'ala, reste pour Cheikh, pour la pêche, est-il utilisé un leurre, un faux pour attirer les poissons? Ça rentre pas dans le fait de tremper les animaux, etc. Non, ça rentre pas, Inch'Allah ta'ala. Pourquoi? Allah ta'ala a dit dans le Coran, il a dit dans le Coran, c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui vous a créé sur tout ce qu'il y a sur la terre, pour vous. Donc le poisson a été créé pour qui? Le poisson a été créé spécialement pour moi. Ah, si je l'attrapais le poisson, Allah Ta'ala l'a créé pour moi, et lui il se cache sous la mer. Donc celui-là, je vais faire tout mon possible pour le sortir et le mettre sous le poil. Ou comment ça s'appelle, le poil ou là? Voilà, donc moi je vais le faire sortir, Inch'Allah ta'ala, de la mer. Le poil. Donc, la poil. D'accord. Donc, Allah ta'ala, la quoi? Donc, Allah ta'ala a créé ce poisson pour moi. Donc, s'il a créé pour moi, il m'est permis de tout utiliser tant que c'est pas haram. Tant que c'est pas, je ne l'ai trompé en rien. Non. J'ai fait un leurre pour l'attraper. Non. Donc, c'est pas quelqu'un, c'est un membre ou là, je l'ai trompé. C'est un poisson, il faut que je le trempe pour que je le mange. Si je le trempe pas, il va pas venir. Donc, il faut que je le trempe pour que il rentre, Inch'Allah ta'ala, dans mon ventre. Pour le faire rentrer dans mon ventre, il a été créé pour mon ventre. Donc, tous les moyens sont permis tant que c'est pas haram, bi'idhnillah ta'ala. Naam. Tfadhal.
Non, Michel, la remarque que je voulais vous faire tout à l'heure sur les comptes à la banque, même si cette banque fait des intérêts, il y a plusieurs types de comptes qui existent en France. On n'est pas obligé d'avoir un compte qui fait des intérêts. On peut avoir un compte courant. Un compte courant, c'est un compte ou bien il n'y a que l'argent qu'on dépose. Et ça, elle n'apporte pas d'intérêt. Après, la banque, là, même si elle travaille avec cet argent. Mais pour nous, c'est-à-dire à la fin de l'année, ils ne vont pas nous donner d'intérêt sur cet argent-là. Donc c'est le compte courant, finalement. Donc, je vous donne les trois prochaines questions. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Je souhaiterais connaître l'avis sur les photos, car j'ai lu de nombreuses fatwas qui l'interdisent. Le problème, c'est que je vois certains prédicateurs publier des photos. Allah jazakum khair. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Une sœur souhaite savoir s'il est permis de vendre des cadres photos. Donc ça, on fait à l'intérieur. Donc après, tout dépend de l'usage qu'elle aura cette personne. Et une télé. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous préserve. Suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. J'avais en ma possession un peu d'or pendant un peu plus d'une année qu'on a fait ramener pour moi en Algérie, ce qui m'a donné 6 millions de dinars. J'ai en ma possession cet argent maintenant. Dois-je verser une zakat pour cet or? Si oui, combien dois-je en verser? Wa jazakumullahu khairan.
Donc j'aimerais savoir l'avis sur les photos, car nombreuses fatwas qui l'interdisent, etc. Je vois des prédicateurs publier des photos. Non, l'avis de la plupart des savants, ils disent c'est interdit, sauf bien sûr quand c'est obligatoire comme la carte d'identité, etc. Non. Mais il y en a certains comme Cheikh Ben Othaymine, des fois ils disent c'est interdit, des fois ils disent c'est pas interdit. Cheikh Ben Othaymine là. Dans certains fatwas, il dit c'est interdit. Dans d'autres, il dit l'interdiction n'est pas claire. C'est pour cela que, même si quelqu'un va prendre de sa fatwa que l'interdiction n'est pas claire, il ne faudrait pas yani, qu'il abuse. Il faudrait pas qu'il l'abuse. Mais qu'il s'en serve vraiment quand c'est dans le besoin. Vraiment quand c'est dans le besoin. Pour les prédicateurs qui publient leurs photos, etc., bien sûr, ce n'est pas une preuve. Car l'islam, on le prend, comme vous savez, du Coran et de la Sunna. Donc il y a certains qui ou bien ne sont pas convaincus par la vie que c'est haram, ou bien qui sont convaincus et qui yani, ils veulent pour yani, suivre leur passion. Il y en a qui sont comme ça. Sinon, est-ce que vous voyez par exemple les photos des grands savants? Cheikh Ibn Othaymine ou Cheikh Ben Baz ou le Cheikh Fawzan ou là, ce ne sont pas eux qui ont mis leurs photos sur Internet. Si vous avez rencontré leurs photos, ce ne sont pas eux. Ce sont les gens qui ont mis ça. Non. Reste pour les vidéos c'est moins grave, surtout si c'est dans le din. Surtout si c'est dans le din. Wallah subhanahu wa ta'ala. Une sœur souhaite savoir s'il est permis de vendre des cadres sans photo et une télé. Les cadres sans photo, j'ai pas compris. Ça veut dire c'est vide. Ah, musulman, qu'est-ce que ça veut dire un cadre sans photo? Donc le cadre, il est vide. Est-ce que c'est ça? Non. Je pense, Allah subhanahu wa ta'ala, tfadl.
Non, monsieur, quand elle veut dire vide, là, ça veut dire qu'à la base, le cadre, il est destiné à porter une photo. C'est un cadre photo. Et elle veut se dire, moi je ne sais pas ce que la personne mettra dans ce cadre. Peut-être elle mettra une photo, peut-être elle mettra un paysage ou autre. Donc c'est dans ce sens-là, Allahu a'lam, qu'elle veut dire qu'il n'y a pas de photo. Pas d'affaire.
Oui, mais nous, on va voir c'est quoi. C'est-à-dire, quand je vais vendre mon cadre, à 90%, qu'est-ce qu'on va faire? Une photo ou là, il y a un bateau? Un bateau, et des arbres. Où là, on va faire une photo à 90%. C'est pour cela que je lui conseille qu'elle vende ça, par exemple, à quelqu'un qui pratique. Qu'elle vende ça à un pratiquant. Imagine que tu vas le vendre à quelqu'un qui va mettre sa photo et va mettre yani, tout le temps comme ça dans la maison, ou là, va l'accrocher yani, sur le mur. Ça veut dire que tu participes avec lui jusqu'à ce que le cadre se casse. Même si tu vas mourir demain. Il y a toujours ton cadre qui est là-bas, et à savoir quel genre de photo encore on va mettre, et à savoir quel genre de photo on va mettre. Si c'est possible de le vendre, ou l'aide mes bouddha ou l'islam, si c'est possible de le vendre à des gens, inchallah, qui pratiquent. reste la télé. Et une télé, la télé, c'est plus grave encore. La télé, c'est plus grave. Quand tu la vends à quelqu'un, tout ce qu'il voit, tu partages avec lui les péchés. Et maintenant, quels sont les gens qui ne voient pas la télé, qui ne voient pas le haram à la télé? Les gens qui ne voient pas le haram à la télé, on ne peut pas les compter sur les doigts de la main. Voient le haram avec la télé. Donc la télé, tu choisis entre deux choses. Ou bien la vendre à une famille de pratiquants qui ne voient que les choses qui ont rapport avec le din ou bien les documentaires ou bien les choses qui ne sont pas haram. Car comme dit Cheikh Ibn Othaymin, il dit la télé n'est pas haram, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est haram. C'est pour ça qu'il divise la télé en trois sortes. Et Mohim, qu'est-ce que j'allais dire ici sur la télé? Non, s'il n'y a personne qui veut l'acheter, s'il n'y a personne qui veut acheter la télé, je préfère la détruire que de la vendre ou de la donner à quelqu'un qui va faire le haram à l'intérieur. Car si je la détruis, j'ai perdu un peu d'argent. Je ne sais pas combien qu'elle coûte. J'ai perdu 100 euros, 200 euros, et l'argent, ça part et ça revient. Ensuite, je l'ai détruite pour Allah Ta'ala, pour Allah. Allah Ta'ala va me compenser en mieux d'après un hadith authentique. Par contre, si je la vends, ou je la donne à quelqu'un qui ne pratique pas, chaque chose qu'il va voir de haram, c'est moi qui ai été la cause. C'est moi. Donc c'est vraiment grave de vendre la télé à quelqu'un qui ne pratique pas. Là, quand je dis télé, je dis aussi modem. Comment il s'appelle? C'est pas le modem de l'ordinateur. Comment il s'appelle avec le truc qui vient sur la télé? C'est pas un modem. On peut mettre des fois décodeur, voilà, décodeur, là, mais c'est décodeur, démodulateur, non. C'est plus simple que ça. C'est nature DVD, non. C'est pas DVD. La télé, toutes les télés maintenant marchent avec cette chose-là. Quand tu appuies avec télécommande, tu vois les chaînes. Telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne, tu choisis une chaîne et tu vois. Comment qui s'appelle le truc? C'est pas le décodeur. C'est pas la télécommande. Asla, tu ferais pas, je vais demander, je reviens. Asla. Salam alaikum. Alhamdulillah. Asma, je m'étonne pas que vous n'ayez pas pu me donner le nom. Donc, on goûte le kalash. J'ai compris pourquoi. Parce que chez nous et chez vous, des fois, on n'appelle pas, il y a la même chose, une chose, on n'appelle pas le même nom. Femme, vous l'appelez, vous, je crois que pour vous, c'est décodeur. C'est comme tu as. Chez nous, on dit démo. On l'appelle le démo, comme ça on dit. Ça s'appelle démo, c'est tout. D-E-M-O. Donc, peut-être c'est décodeur, c'est je ne sais pas quoi. C'est ça, d'accord, ouais. C'est sur lequel on guide la télécommande pour choisir une chaîne. Le moyen. Celui-là aussi. T'as la parabole, non. Celui-là aussi, on ne doit pas le vendre. Le moyen. Salam alaikum, ma question suivante. J'avais repoussé un peu d'or pendant un peu plus d'une année, qu'on a fait ramener pour moi en Algérie, ce qui m'a donné 6 millions de dinars. J'ai envie de cet argent maintenant, je dois gérer une zakat cette aussi. J'ai pas compris la question de l'or. La question de l'or, je ne l'ai pas comprise. Donc, elle avait en sa possession, un peu d'or pendant plus d'une année. Plus d'une année, elle avait cet or qu'on a ramené d'Algérie. Mais même si on l'a ramené. Ensuite, je n'ai pas compris pourquoi elle a dit ce qui m'a donné 6 millions de dinars. Donc, elle, si je comprends bien, elle n'a plus cet or. Elle n'a plus cet or. Hein? Elle n'a plus, puisque c'est 6 millions de dinars.
Mais moi, j'avais pas compris la même chose. J'avais pas compris quand j'ai lu la question. Je l'ai relu. Et en fait, elle veut dire qu'elle avait en sa possession de l'or. Et en fait, elle l'a fait ramener en Algérie. C'est-à-dire, elle l'a ramené en Algérie. Ils l'ont vendu là-bas et ils lui ont ramené 6 millions de dinars. C'est ce que veut dire la question. Fadal, cher.
Salam alaikum. Salam alaikum. C'est pour ça que moi, j'ai dit que. C'est pas important qu'elle dise les ramener d'Algérie. Non. Donc elle avait en sa possession un peu d'or pendant plus d'années. On a fait ramener en Algérie cet or, ce qui va donner 6 millions de dinars. On m'a posé cet argent, maintenant dois-je faire un zakat? Non. Cet or maintenant, qui est devenu de l'argent chez elle, a dépassé une année chez elle. A dépassé une année chez elle. Donc cet or qu'elle avait chez elle, s'il dépasse 80, c'est sûr qu'il dépasse 80 grammes, puisqu'il a donné 6 millions de dinars. Il a donné 60 millions. La zakat, c'est 48 millions. Donc, elle donne Inch'Allah Ta'ala pour l'an passé. Pour l'an passé, elle n'a pas fait la zakat. Elle a dit combien je dois donner. Les 60 millions, elle donne 2,5%. Elle doit donner de cet argent, de dire que 6 millions de dinars, elle les divise par 40. Elle fait une division. Elle fait une division. 6 millions de dinars divisé par 40. Ce qu'elle trouve, elle doit le donner aux zakat. Na, fadlal. Et trois dernières questions, Inch'Allah.
Donc les trois dernières questions. Question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour tous ces cours ainsi que les admins. Je voudrais savoir s'il y a une traduction approximative en français pour Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Ta'ala vous préserve, cher. J'aurais une question à propos de l'hymne algérienne. Y a-t-il des paroles de shirk? Barakallahu fikum. Là, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est encore moi la sœur enceinte, la fille qu'elle porte. Je suis désolé, chère, de vous importuner, mais mon mari ne veut rien entendre et me rejette constamment. Il me parle très sèchement. Lui qui était si respectueux envers moi, je ne le reconnais plus. Chère, je suis malheureuse et je n'arrive plus à lui parler. Alors moi aussi, je commence à me détacher de lui, car d'une part, il ne veut pas de moi, et d'autre part, je suis de nature assez fière, et c'est difficile pour moi de me voir constamment repoussé, méprisé, alors que je n'ai rien fait, subhanallah. Et cher, j'aimerais vous demander des conseils, et j'aimerais savoir si j'ai le droit de me détacher de lui, et de ne plus chercher à faire des efforts en lui parlant. Cher, de plus, ne pensez-vous pas que quand il a été dans l'extrême colère, peut-être qu'un djinn en a profité pour l'attaquer, car ça fait un mois cher que ça dure. Et en plus, depuis ce jour, il ne se lève plus pour le fajr. Quand je lui dis, est-ce que je te réveille? Il me dit non. Je lui ai dit, Allah, Allah, il est trop bon avec toi. Les deux enfants que tu as, tu ne les mérites même pas. Allah, il donne même à ceux qui ne m'assistent vis-à-vis de moi. Car c'est pas moi qui ai créé le garçon, subhanallah, et j'accepte ce qu'Allah m'accorde. Conseillez-moi, cher, qu'Allah vous accorde le Firdaus. Et cher, ensuite, je demanderai un complément sur une question qui vous a été posée, inshallah. Fadal, cher.
Naam, vous m'entendez? Donc la personne a dit qui se plaint de son mari, qui ne veut pas accepter la fille. Allah al-Musta'an, celui-là, vraiment, il vit avec des pensées de la période anti-islamique, le Jahiliya. Jahiliya, quand quelqu'un avait une fille, il ne pouvait pas sortir dans la rue, c'était haïb, il voulait l'enterrer vivante, ceci, cela. Celui-là, yani miskin, il est encore loin. Il est encore loin, loin, loin. Il n'accepte pas le décret d'Allah, le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce qui est malheureux, et ce qui est étonnant aussi, c'est quoi? C'est que maintenant, ça a été prouvé. Bi-idhnillahi ta'ala, la médecine, yani la technologie de la médecine, et ça a été prouvé, bi-idhnillahi ta'ala, que c'est pas la femme qui donne le garçon ou la fille, mais que c'est l'homme qui donne. Subhanallah l'alim. La femme, là, c'est yani, d'après ce que lui donne l'homme. S'il lui donne des trucs créés par Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas comment ça s'appelle, où il y a le garçon, elle, c'est comme une usine. elle féconde, c'est tout. Son but, c'est de féconder. Les gamètes mâles. La femme, seulement, elle féconde. Si son mari lui donne un garçon, des trucs mâles, elle lui féconde un garçon. S'il lui donne des trucs filles, elle va lui donner une fille. Donc maintenant, cette sœur, normalement, c'est elle qui va se plaindre du mari. Elle va lui dire, toi, tu me fais des problèmes. Tu m'as donné une fille. Moi, je voulais un garçon. C'est ta faute. C'est ta faute. Maintenant, je vais déposer une plainte contre toi. Pourquoi tu m'as donné une fille? Maintenant, je... Astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, c'était à dire, même, je voulais dire que, même si c'est au niveau de la discussion ou là, elle lui dit, tu es vraiment djahil. Tu ne sais même pas, d'ailleurs, que le garçon et la fille, Allah subhanahu wa ta'ala fait sabab, c'est l'homme qui donne ça, c'est pas la femme. Donc, elle dit, c'est déjà contre toi. Al-Muhim, est-ce que vous m'entendez, muslim? Al-Muhim, elle dit que est-ce qu'il n'a pas été frappé par un djinn dans la colère, ou là, c'est possible. Le djinn profite de la colère extrême. Le djinn aime la colère. Et il guette les gens quand ils sont en colère. Parce que le djinn ne peut pas rentrer dans la personne, dans une personne, il ne peut pas la posséder sans qu'il y ait quoi? Sans qu'il y ait de cause. Non, il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'il rentre. Pour que ça lui facilite la rentrée. Alors il n'y a pas comme la colère pour lui faciliter la rentrée. Il y a deux choses, la colère et il y a la distraction. Une personne très distraite, loin du din, passe son temps à jouer, à rire et à écouter de la musique. C'est très facile pour le djinn de la posséder. Mais la colère, c'est en premier lieu. Dans le classement, c'est d'abord la colère. Donc je dis, c'est possible que ce frère, Yanni, ait été possédé par un djinn. Surtout si quoi? Si c'est pas... Yanni, ce qu'il fait maintenant, si c'est pas de ses habitudes. Yanni, s'il a changé de comportement, etc. Yanni, c'est peut-être, Yanni, ça vient d'un djinn. Sinon, donc, c'est possible qu'il fasse une ruqya ou là. Sinon, alors qu'elle voit, Yanni, comment faire une solution. Surtout s'il part aux toilettes dans la grande colère. C'est pour cela que vous remarquez, il y a des gens qui, lorsqu'ils se mettent en colère, ils s'enferment dans les toilettes. Alors dans la salle de bain, mais les toilettes c'est pire. Non, les gens qui, lorsqu'ils sont en colère, ils vont dans les toilettes et s'enferment, ils ne veulent pas sortir, ceux-là sont la plupart d'entre eux sont possédés. Même si une personne va dire, mais je connais bien une personne qui s'enferme et elle n'est pas possédée. Je lui dis, qui t'a dit qu'elle n'est pas possédée? Est-ce que tu crois que toute personne possédée, ça veut dire que le djinn s'est manifesté? Non. Tu peux faire une ruqya à quelqu'un 5-10 années, alors qu'il a le djinn, mais il ne se manifeste jamais. Ah, jusqu'à ce qu'il tombe dans quelqu'un qui connaît bien la ruqya, ou bien que le djinn a s'affaiblisse ou là, et il déclare, il dit, voilà, je suis présent, etc. Et il te dit que ça fait des années qu'il est là, depuis que 20 ou là 30 ans. Elle mourit. Personne n'a dit, non, elle doit aller voir si c'est quelque chose qui va passer, inchallah que ça passe. Sinon, Yanni, elle doit prendre Yanni du sérieux et voir avec sa famille à elle, Yanni, même si sa famille à lui, comment trouver une solution. Non, comment trouver une solution? Car il l'accuse d'une chose dont elle est quoi? Dont elle est innocente. Est-ce que c'est elle qui choisit le garçon ou la fille? Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pourquoi l'accuser? Donc, Yanni, qu'elle voit avec sa famille à lui, Yanni, même s'ils ne doivent pas continuer, qu'ils s'arrêtent. Que chacun, Yanni, commence sa vie. Pourquoi maintenant il va lui gâcher sa vie? Déjà, dès le commencement, il commence comme ça. Autant que Yanni, il aille choisir une fille qui lui plaît, elle choisit quelqu'un qui accepte ces choses-là. Qui, lorsque elle lui dit je suis enceinte d'une fille, il se prosterne, il dit Alhamdoulilah. Comme a dit le prophète Islam, en parlant des filles, qu'est-ce qu'il a dit? Innahunna al-ghaliyat al-mu'nisat. Il a dit ce sont les chères, elles sont chères les filles. Al-mu'nisat, celle qui tient compagnie. Non, la fille, quand elle est, mashallah, elle est bien éduquée, c'est mieux qu'un garçon. garçon est tout le temps dans la rue. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ensuite, on ne peut pas ce qui peut lui arriver. La fille, elle est presque tout le temps à la maison. Elle ne sort que... Je dis, quand elle est éduquée, elle est dans le dîner. La rue, ça ne lui dit plus rien. Qu'est-ce qu'elle va faire dans la rue? Au contraire, elle voudrait aller s'enfuir de la rue et des hommes. Elle voudrait dans la maison pour lire, pour apprendre, pour ceci, pour cela. Donc, je conseille à cette sœur, s'il n'y a pas de solution avec lui, qu'elle voit. Elle ne reste pas comme ça, elle vieillit. Elle va vieillir, elle va trouver que c'est trop tard. Tant qu'on n'a qu'une seule fille ou là, hop, on cherche la solution. Allah Ta'ala a créé beaucoup d'hommes qui pourraient la rendre heureuse. Donc, moi je ne perds pas mon temps. S'il veut qu'on adore Allah Ta'ala ensemble, ici, je suis prête. Moi je ne cherche pas le mariage, ni je cherche un autre homme. Mais si qu'il me gâche ma vie, non, j'accepte pas. Je cherche une solution, Inch'Allah Ta'ala. Non, mais puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala t'aider ma soeur et te faire une solution. Donc la dernière question, c'était quoi? On va terminer avec celle-là, Inch'Allah Ta'ala. Je crois qu'il reste une autre avant celle-là. Eh non, pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il y a quelque chose en français? Il y a quelque chose où Allah Ta'ala alam, c'est de dire, on dit Allah, ensuite on dit exalté soit-il. Exalté soit-il. Je vais l'écrire. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Vous voyez, musulman. Alhamdulillah. Ça, c'est pour Azza wa Jal. Et pour... la dernière question. J'ai une question à propos de l'hymne algérien. Y a-t-il des paroles de shirk, barakallahu fikoum? Naam, naam. Pour l'hymne algérien, il y a dans le début, c'est le shirk. Ça commence par le shirk. Comment qu'on dit l'hymne algérien? On dit qasamen. Qasamen, ça veut dire je jure. Qasamen, je jure. Quand on jure, on doit jurer par Allah, ça? Qasamen, billah. Normalement comme ça. Lui, il dit non. Qasamen bin nazilat in mahiqat. Je crois que ça commence comme ça. Donc, il commence par jurer de yani, sur des choses yani, qui ont été créées. Il jure sur les armes, il jure sur les balles, il jure sur les canons, il jure sur les mitraillettes, il jure comme ça. C'est comme ça que commence son hymne national. Et il jure sur les soldats, ou le djounoud, je ne sais pas quoi. Non. Donc tout ça, c'est du shirk. C'est pour ça que les savants disent que yani, celui-là, miskin, il est mort, celui-là. Ça se voit qu'il était loin. Ça se voit qu'il était loin du din. Celui qui a fait cette hymne national. Et que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Car il jure dans son hymne, il jure par des choses qui ont été créées. Alors qu'on ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala ou par ses attributs. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, nahal al-arba'a, mercredi. Bi'idhnillah ta'ala. Si jamais, jeudi, si jamais, jamais. Tfadlal.
Juste avant de finir, Inch'Allah, je vous avais dit que je vous demanderais deux compléments. Un complément tout à l'heure, je vous ai dit. Là, ça sera deux compléments sur deux questions qui vous ont été posées. La première question, je ne sais pas si vous vous rappelez de la question qui vous a été posée mercredi sur la personne qui avait fugué et dont le mari avait choisi son tuteur. Avait choisi son tuteur alors qu'elle, elle est issue de parents musulmans. Et vous aviez dit que son mariage n'était pas valide. Non, très bien. Et donc la sœur voudrait savoir, donc je reviens dessus, Inch'Allah. Assalamu alaikum. J'avais posé la question pour une sœur dont le mari l'a forcé à quitter sa famille et à l'épouser. Cette sœur demande, les adillah concernant le fait que si je suis hors mariage, l'oncle maternel n'est pas mon wali. Donc là c'est pas très clair. L'oncle maternel et son wali doit être mon wali en sachant que mes parents n'étaient pas mariés. Donc elle veut le dalil. Le dalil, c'est que le tuteur ne peut pas être du côté de la mère, même s'ils n'étaient pas mariés. Et le deuxième complément. Non, parce qu'en fait, chère, elle s'est trompée, elle s'est mal rédigée sur le passage. Si je suis hors mariage, l'oncle maternel est tout et mon wali. Elle a écrit ça, c'est pour ça que je ne comprends pas. Doit être mon wali, en sachant que que mes parents n'étaient pas mariés, ce serait pour exposer. Elle veut dire qu'elle est issue d'une union donc hors mariage. Donc forcément, son père ne peut pas être son tuteur, il est juste son père biologique. C'est comme ça que je comprends la question, cher. Après, je me trompe peut-être. Et donc, elle demande est-ce que son oncle maternel peut être son wali? Elle demande le délil. Et le délil, wallahu alam, c'est que le tuteur ne peut pas être du côté maternel. Mais ça, c'est vous, le cher, c'est vous qui répondrez, inch'Allah, à la question. Et la deuxième chose, c'est sur la question des intérêts. Vous aviez dit qu'on pouvait donner à la mère si elle était nécessiteuse. Mais cette personne dit est-ce qu'elle peut donner à sa mère qui est nécessiteuse? Mais que celle-ci en fait vit avec sa mère. Et donc elle dit forcément ce qu'elle mangera sera issu de riba, des intérêts qu'elle a donnés à sa mère. Est-ce qu'elle peut tout de même lui donner à sa mère, même si elle vit sous le même toit? Non, mais elle l'a pas dit, cher, la dernière fois. Ça, elle l'a pas dit. Je la cherche dans. Est-ce que. Akh Mohamed, demande ses compléments. Parce que la question, elle est mal rédigée. Demande-lui si c'est ce que j'ai dit au cheikh. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est ce qu'elle a voulu dire dans sa question?
Oui, la seule réponse du cheikh pour le mariage, cheikh a dit qu'il n'est pas valide car ce n'est pas le mari qui choisit le wali. Ça, j'ai dit ça. Mais le plus important, le plus grave, c'est pas ça. C'est qu'elle n'a pas dit qu'elle était hors, elle était issue hors mariage. Or, si elle avait dit ça aurait tout changé. Car maintenant, si elle est issue, mais la soeur a été conçue, voilà, elle n'a pas dit ça. Car si elle m'avait dit, j'ai été conçue hors mariage, donc je lui aurais dit, toi, ton père ne peut pas te marier, ton père biologique ne peut pas te marier. Donc celui qui t'a épousé, donc il a raison, il a eu raison de choisir pour toi un tuteur. Tu n'as pas choisi toi de tuteur, tu lui as dit, choisis à ma place. Il a choisi quelqu'un, ils vous ont marié. Un imam, là. Donc, c'est ton père, ton mari s'est pas trompé. Mais moi, ce qui m'a étonné la fois passée, c'est que tu n'as pas dit, j'ai été conçu hors mariage. Je me suis dit, comment celle-là? Elle a un père, ou alors son grand-père, ou alors son frère, ou là. Et, subhanallah, elle est allée choisir un wali étranger. Et le hadith est clair du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toute femme qui se marie sans la permission de son wali, son mariage est invalide, son mariage est invalide, son mariage est invalide 3 fois, comme ça il a dit à l'Essoustan. Fenikahua, batel, batel, batel. Donc ici ça change tout, Orti. Orti, ça change tout. Mousseline, est-ce que tu as autre chose à propos de ce mariage? Pour les intérêts, elle les donne à qui elle veut. Elle donne à sa mère, ça ne fait rien. Même si sa mère va quoi? L'autre, elle va manger avec elle, ça ne change rien. Quand on les donne à sa mère, pour sa mère, c'est halal. Donc, si c'est pour sa mère, c'est halal, donc toi, tu vas manger sans halal. Car c'est d'après l'i'tiqad. Non, donc, il n'y a pas de problème, inch'Allah, si elle les donne aussi à sa mère. Il y en a même qui ont dit que. Non. Mais nous, on dit si elle les donne, c'est. Vous avez remarqué comment yani, un seul mot, une seule chose peut changer toute la fatwa. Quelqu'un qui te pose une question, il peut, sans le vouloir peut-être, il ne fait pas exprès, mais il ne te dit pas une chose. Ou alors il fait exprès, il te cache une chose. Et, subhanallah al-azim, tout va changer. Tout va changer. C'est pour ça que le prophète sallam a dit quoi? Il a dit, Estefti qalbak wa in aftak al-muftun. Il a dit, pose la question à ton cœur. Et demande à ton cœur de te répondre. C'est lui qui te donne la fatwa. Il a dit, Wa'in steftek al-muftun. Même si tu as posé la question à yani, des mouftis qui t'ont répondu. Pourquoi? Quand je vais moi chez un moufti, je vais lui dire que voilà, j'ai fait telle et telle chose, et je lui cache une chose. Je lui cache que par exemple, ce jour-là, j'avais bu, ou bien je lui cache, je ne sais pas quoi, qu'il n'y avait pas de tuteur dans mon mariage, ou là. Ensuite, il m'a répondu. Mais dans mon cœur, quand je lui dis ça, barakallahu fikoum, et je pars, dans mon cœur, je sais que ce n'est pas la réponse. Pourquoi? Car je suis sûr que si je lui avais dit telle chose, donc dans ce cas, le prophète Hassan t'a dit, ce n'est pas la peine. Yani, ton cœur, c'est lui le témoin. C'est lui le dalil. Ce n'est pas la peine de prendre la fatwa, car elle n'est pas valide. Al-Mouhim. Donc, s'il a sera quelque chose à dire ou là, qu'elle prépare ça, inchallah ta'ala, qu'elle s'assoie, elle médite et cherche ce qu'elle veut exactement. Et le mercredi, inchallah prochain, qu'elle nous dise, inchallah ta'ala, ce qu'elle veut. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui faire une solution à elle et à tous nos frères et nos sœurs, nos filles et nos fils qui ont des problèmes. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.